aussi président de la Société française de psychiatrie de l'enfance et de l'adolescence et des disciplines associées, qui est aussi président d'honneur de la Fédération nationale des écoles de parents et d'éducateurs. Alors, je vous préviens tout de suite, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous devez lire les livres de Daniel Marcelli, parce que non seulement il a une bonne plume, non seulement c'est facile à lire, alors qu'il parle de choses pourtant fort compliquées. Il a écrit de très nombreux livres, comme à chaque fois, donc je vous dis, il faut que vous regardiez sur le net, mais je vais vous en citer quand même quelques-uns, parce que c'est important. Il a écrit évidemment « L'enfant chef de la famille », il a écrit « Il est permis d'obéir, l'obéissance n'est pas soumission ». Et là, il faudra vraiment nous en parler, Monsieur Marcelli, puisque je lisais, pas plus tard qu'hier, un sondage qui disait la chose suivante, que 27% des Français estimaient que l'obéissance est une qualité souhaitable à acquérir pour un enfant, alors qu'ils étaient 53% en 1990. Et on vient de descendre, paraît-il, à 27%. Le sondage avait l'air d'être... Donc, il est vraiment impératif que vous nous parliez de ce que c'est que la chance de devoir obéir, y compris pour pouvoir après désobéir plus tard, subtilité qui apparemment échappe à beaucoup de monde. Il a aussi écrit un livre qui s'appelle « Avoir la rage » et « Le règne de la séduction », cette sorte de façon d'éduquer qui ne consiste plus à justement faire une autorité positive, mais à séduire, ce qui n'est pas sans conséquence sur le comportement des jeunes après. Et puis il va sortir un livre, parce qu'en réalité il en sort sans arrêt, sans arrêt, on peut le dire.
Tous les 3-4 ans.
Oh, oui, enfin bon. Ce prochain livre s'appelle « Moi-je, point de suspension, de l'éducation à l'individualisme », c'est chez Albin Michel. Voilà. Il va donc nous faire part aujourd'hui de 50 ans d'expérience en tant que pédopsychiatre, de 50 ans d'observation et d'aide aux pratiques éducatives familiales. Et c'est pourquoi on lui a dit, mais alors y a-t-il du nouveau dans les relations parents-adolescents aujourd'hui? Y a-t-il du nouveau, Monsieur Marcelli?
Bien, merci Elisabeth, merci Dominique, que je connais un petit peu plus que les autres, parce que ça fait très longtemps qu'on se fréquente à travers ce DIU. Merci à vous d'être présent. C'est la première fois que j'interviens depuis la mi-mars en présentiel. Bon, j'ai demandé si je pouvais ne pas porter le masque pendant que je parle. On m'a dit que c'était possible. Et je vous prie donc d'accepter cela, même si vous devez être masqué, ce qui est, je pense, parfois un peu pénible, on le sait tous. Donc, me voilà devant vous. Je dois dire que c'est avec un certain plaisir de retrouver... cette présence physique qui est quand même un peu différente de ce qu'on fait par les Zooms ou par les ordinateurs. Donc voilà. Alors effectivement, on me demande assez régulièrement, au fond, qu'est-ce qui a changé dans les relations parents-adolescents et qu'est-ce qui a changé dans l'adolescence? Est-ce que l'adolescence est toujours la même ou est-ce que ça, il y a des nouveautés dans l'adolescence? Alors, je commencerai par deux citations que vous pouvez trouver dans « Je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain. Parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible. Notre monde atteint un stade critique, les enfants n'écoutent plus leurs parents. » Deuxième citation, « Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque, finalement, les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne voient plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors, en toute jeunesse et en toute beauté, c'est le début de la tyrannie. » Première citation, Hésiode, la théologie. Deuxième citation, Platon, la République, 4 siècles avant Jésus-Christ, 2400 ans. Donc si depuis 2400 ans, les enfants et les adolescents étaient de plus en plus terribles de génération en génération, je pense qu'aujourd'hui, ce seraient des monstres absolument ingérables. Une des difficultés de parler des changements, c'est que tout de suite, on a tendance à se mettre dans une hiérarchie de valeurs, dans une hiérarchie, avec l'idée qu'avant, c'était mieux et maintenant, c'est pire. Une des difficultés de notre pensée, c'est de penser une différence sans penser une hiérarchie. Je pense que c'est un des enjeux de notre pensée contemporaine. Par exemple, on a le droit de penser une différence entre ce qu'est être une femme et ce qu'est être un homme. Et en revanche, cette différence, elle ne s'inscrit pas dans une hiérarchie. Mais c'est très difficile de penser une différence sans penser une hiérarchie. Et effectivement, aujourd'hui, assurément, ce n'est pas la même chose qu'il y a 25 ans, 50 ans, 75 ans, 100 ans. Je dis 25 ans, 25 ans, c'est à peu près une génération. Et qu'effectivement, il y a des changements. Alors, est-ce que ces changements touchent au psychisme et touchent à l'organisation psychologique des êtres humains? Personnellement, je le crois. Je crois qu'effectivement, il y a des modifications qui arrivent petit à petit et je suis assez convaincu que ces modifications ne font que commencer vu la rapidité de changement de notre monde. Pour ceux que ça intéresse, je ferai une remarque qui a trait à l'hérédité. En technologie, il y a effectivement une hérédité des caractères acquis. Quand on invente un nouvel appareil, quand on invente une nouvelle technique, cette technique, elle existe et elle se transmet à l'invention suivante. Quand on a des voitures, chaque progrès cumule et permet un progrès suivant, etc. Donc il y a donc une hérédité des caractères acquis. Dans le monde du vivant, et en particulier chez nous les êtres humains, chacun sait qu'il n'y a pas d'hérédité des caractères acquis. Ce que vous avez acquis, vos enfants ne l'acquièrent pas parce que vous avez acquis. Voilà. Il n'y a pas d'hérédité des caractères acquis, même si cette affirmation aujourd'hui est un peu tempérée par certaines recherches fondamentales. Bon, mais globalement, on peut dire que ça reste quand même un élément essentiel. Et il me semble que de cumul en cumul, l'hérédité des caractères acquis en technologie et l'absence d'hérédité des caractères acquis dans le monde humain fait que l'écart entre la technologie et nous-mêmes ne cesse de grandir et ne cesse de susciter une charge mentale de plus en plus exorbitante chez les êtres humains pour accéder à cette hérédité des caractères acquis en technologie. L'exemple le plus typique, c'est, je pense, effectivement, l'irruption de l'informatique, etc. Et ce, dès le plus jeune âge, voire dès l'âge des bébés, qui sont confrontés, dès l'âge de 6 mois, 8 mois, à des écrans, avec effectivement des charges mentales dont on n'a pas complètement idée. Et peut-être des modifications de ce qu'on appelle l'épigénèse. Je vous rappelle que l'épigénèse, c'est tout ce qui concerne les transformations du corps, mais peut-être encore plus du psychisme, dans l'évolution depuis la naissance par rapport à l'environnement. C'est tous les apports de l'environnement et du développement. C'est ce qu'on appelle l'épigénèse. Bien, alors à partir de là, la question que nous posons, y a-t-il des transformations? Qu'est-ce qui a changé? Incontestablement, les enfants et les adolescents que je voyais il y a 50 ans, puisque Elisabeth Martin a eu l'extrême amabilité de laisser entendre mon grand âge. effectivement, moi je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes, les enfants et les adolescents, les enfants aussi, n'ont plus grand-chose à voir majoritairement avec ce qu'étaient les enfants et les adolescents il y a 50 et a fortiori encore plus, années quand j'étais jeune interne. Je vais vous donner simplement deux petits exemples que je vais piocher du côté de l'enfance dans un premier temps. Le nombre d'enfants inhibés, coincés, extraordinairement timides, voire parfois maladroits, on parlait même à l'époque de débilité, motrice, ouais, débilité motrice, maladroit. Ces enfants qui gesticulaient mal, qui étaient pataux, qui étaient empruntés, voilà, qui étaient... il y avait un mot qui a quasiment disparu, c'est le mot empoté. Empoté, hein, il était empoté. S'il y en a qui sont originaires du Poitou-Charentes, du Poitiers et les environs, il y a une expression dans le Poitou-Charentes pour les enfants qui bougent beaucoup, on dit qu'ils dépotent, c'est-à-dire qu'ils sortent de leur peau. Ben, je dirais que tous ces enfants empotés, coincés, inhibés avec cette fameuse débilité motrice, certes, on en voit encore quelques-uns, mais la plupart de ceux qu'on voit, ils sont inscrits dans des pathologies neuropsychologiques et neurodéveloppementales, de dyspraxie, etc. Mais l'immense majorité des enfants aujourd'hui sont au contraire ont une gestualité très déliée, souple, saute facilement, etc., etc. Voilà. Alors jusqu'au point d'ailleurs où aujourd'hui, ce qu'on reçoit dans les cabinets, ce ne sont plus des enfants inhibés, coincés, empotés, maladroits à la gesticulation pataude. Ce sont des enfants, comme vous le savez, hyperactifs, qui courent partout, qui sautent partout, qui gesticulent, etc. Alors, je veux bien qu'il y ait des transformations neurosynaptiques et des transformations dans les neurotransmetteurs, mais je ne suis pas convaincu qu'en une génération, en deux générations, le cerveau humain est à ce point changé au niveau de son arborescence moléculaire et synaptique. Je pense en revanche que les conditions d'éducation ont tellement profondément changé qu'effectivement, peut-être qu'il y a des résultats, que l'enfant n'est pas seulement le produit de ses gènes, il est aussi le produit de son éducation. Je ne chercherai pas à faire de pourcentage, mais je pense qu'effectivement, il est difficile de croire que l'enfant, comme ça, est uniquement le produit de ses gènes. Je dirais peut-être, au fond, pourquoi cette hypothèse est tellement satisfaisante aux yeux de la science aujourd'hui. Deuxième exemple, j'étais donc jeune interne, et quand je travaillais, on avait un nombre très impressionnant d'enfants qui présentaient des bégaiements. Qui bégayait. Et dans toutes les classes d'école primaire, il y avait au moins un ou deux enfants bègues. C'était extrêmement fréquent. Alors on parlait de bégaiement, il y avait différents types de bégaiement. Si vous avez bien remarqué aujourd'hui, le bégaiement a quasi disparu. Alors je ne dis pas qu'il n'y a plus d'enfants bègues, il y en a encore un de temps en temps. Mais à la fin de ma carrière, on recevait un enfant bègue dans le centre médico-psychologique qui recevait à peu près 1 800 à 2 000 enfants par an. C'était un gros centre. On en recevait un tous les deux ans, un enfant bègue. Voilà. Et en revanche, ce qu'on recevait énormément, c'était les enfants qui bafouillaient, qui articulaient mal, qui avaient des troubles articulatoires plus ou moins importants et qu'il fallait parfois avoir la maman pour qu'elle décrypte le langage. Les enfants parlaient comme ça, mais... Sans toujours bien articuler. Si vous voulez provoquer un enfant bègue, un bégaiement chez un enfant, vous lui dites réfléchis avant de parler, parle correctement. Alors évidemment, les petits enfants, vers l'âge de 18 mois, ils ne s'articulent pas toujours très bien, ils font des fautes de syntaxe. Et aujourd'hui, on a dit aux mamans, laissez vos enfants s'exprimer, laissez-les s'exprimer et ils finiront par bien parler. Voilà, donc on a au fond inversé. Avant, il y a 50 ans, la charge mentale de devoir bien parler, c'était sur les épaules de l'enfant. Tais-toi, réfléchis avant de parler. Comme je le dis très régulièrement, chez vous, quand vous êtes avec votre conjoint, vous ne réfléchissez pas avant de parler, ce qui parfois est une erreur. Vous feriez mieux parfois de réfléchir. Mais en général, quand on parle, on se laisse aller. Si on doit connaître la fin de la phrase avant de commencer sa phrase, on bégaye. En revanche, effectivement, il est nécessaire de bien articuler, sinon c'est une bouillie verbale. Et aujourd'hui, effectivement, la charge de la compréhension d'un petit enfant repose sur les épaules de l'adulte et plus sur les épaules de l'enfant. Et du coup, un certain nombre d'enfants sont en rééducation orthophonique, ils vont 5-6 séances chez l'orthophoniste où on leur apprend à correctement poser leur langue, à correctement articuler. En général, ça passe tranquillement. Alors que le bégaiement était un espèce de poison développemental dont les êtres humains avaient du mal à se sortir. Voilà deux exemples. Je ne pense pas qu'il y ait un chromosome et un gène du bégaiement. Et actuellement, on n'arrête pas de chercher le chromosome ou le gène des troubles articulatoires ou des troubles de langage. Il me semble qu'on pourrait peut-être aussi chercher du côté des modes éducatifs. Alors c'est tout cela que l'on va essayer d'évoquer brièvement. Ça ne peut être que brièvement parce que ça touche à tellement de choses. L'éducation des enfants, ça touche au développement de l'enfant, ça touche à la structure de la famille et ça touche à la structure de la société. Donc il y a des emboîtements successifs. Et si on veut essayer d'être je dirais, suffisamment ouvert et pas caricatural, force est d'aborder brièvement ces différents champs. Alors, je procéderai peut-être, puisqu'on va parler essentiellement d'adolescents, qu'il est question d'adolescents difficiles. Alors, il est vrai aujourd'hui que les adolescents sont globalement plus difficiles que jadis. Ça, c'est plus difficile. Pourquoi ? Pour une raison extrêmement simple. Extrêmement simple. Jadis, en devenant adolescents, les adolescents avaient un peu peur des adultes, étaient timides, avaient peur de dire des bêtises, étaient un petit peu craintifs. Et le nombre d'adolescents inhibés, coincés, était extrêmement élevé. En début d'adolescence, il y avait d'ailleurs une résurgence de cette timidité d'enfance qui était souvent extrêmement contraignante pour beaucoup d'individus. Elisabeth Martin me parlait tout à l'heure de personnes qui étaient justement très timides et qui souffraient de cette forme de timidité face aux autres. Eh bien, aujourd'hui, effectivement, cette timidité a en grande partie disparu pour être dans ce qu'on appelle maintenant l'assertivité, c'est-à-dire l'affirmation de soi-même, l'affirmation de ses idées. Voilà, moi je pense ça, moi je dis ça, moi je dis, etc. Et cette assertivité est quelque chose qui permet à la fois aux êtres humains de dire ce qu'ils pensent, de dire ce qu'ils ressentent et de pouvoir s'exprimer comme ça. Donc il y a de ce point de vue-là un progrès, mais qui peut aller jusqu'à des extrêmes. Moi je pense ça et puis toi tu penses le contraire et tu es un con, tu m'emmerdes, tu me fais chier, etc. Et d'annuler l'existence de l'autre. Voilà, c'est extrêmement... Parce qu'effectivement... Malheureusement pour nous, malheureusement pour l'individu, je reviendrai sur ce problème, c'est la première fois que je prononce ce mot individu, malheureusement pour l'individu, nous sommes d'abord et avant tout des animaux sociaux. Nous vivons en société et on ne peut pas se mettre à l'écart de la société. On ne peut pas, il y a bien quelques anachorètes qui vont dans le désert tout en haut de leurs rochers. Il y a bien quelques refusants indiens qui refusent, mais ces refusants indiens, d'ailleurs on pourra en dire un mot, c'est justement pour pouvoir s'affirmer eux-mêmes par rapport au monde ou par rapport à leurs croyances religieuses, par rapport à Dieu, pour s'élever jusqu'à Dieu, qu'ils sont cela. Quoi qu'il en soit, nous sommes des animaux sociaux. On ne peut pas se retirer de la société. Donc, effectivement, la société a beaucoup évolué et je commence alors.
Là, la petite mère.
Comment?
La belle, elle était vraiment bébé là.
Avec ses joues.
Il a aussi 90. Si elle avait. Elle avait
c'est pas moi.
Moi, je suis
pas moi, c'est quoi ça?
Mylène et Jacques.
C'est ça.
Qu'est-ce qui se passe?
Débuter. En gros, dans ce métier-là. Donc, on est arrivés tous les cinq. Nous, on est arrivés cinq d'un coup.
Je crois que le technicien vient de lancer un enregistrement. Voilà. Merci.
C'est la voix d'en haut, la voix d'en haut. Donc, effectivement, il y a des changements sociétaux majeurs qu'il faut pouvoir prendre en compte. Alors, comment tisser tout cela dans ces changements? Alors, peut-être d'abord... dire qu'est-ce qui n'a pas changé. Qu'est-ce qui n'a pas changé? Au niveau de la naissance, pour l'instant, il faut encore la rencontre de deux gamètes, un ovule et un spermatozoïde. Ce qui est en train de changer, c'est que ce n'est pas nécessairement dans le ventre d'une femme. Ça peut être dans une éprouvette. Avec tout ce que... Bon, pour l'instant, la maternité n'a pas trop changé. Pour l'instant, les premières semestres de la vie... se passe en contact d'humains, 99 fois sur 100 d'une femme, parfois de temps en temps d'un homme, mais en général d'une femme. Dans les familles, effectivement, il reste un papa et une maman, souvent nommés comme tels, mais pas toujours de sexe différent. Ça peut être deux mamans, ça peut être aussi deux papas, donc ça aussi c'est nouveau. Mais il y a deux personnes en général, deux personnes qui s'occupent d'un enfant. Au minimum, parfois plus. Au niveau de l'adolescence, qu'est-ce qui n'a pas changé? Je crois qu'alors, pour, puisque vous êtes dans le DU adolescent difficile, qu'est-ce que c'est que l'adolescence ? Sur le plan physiologique, c'est d'abord et avant tout la puberté. Je crois vraiment que pas de puberté, pas d'adolescence. Il y a certains retards pubertaires où effectivement les jeunes souffrent, mais il y a quelque chose de... Alors pourquoi cette exigence de la puberté et cette transformation qu'impose la puberté ? Je fais référence là à un auteur qui s'appelle Philippe Guton, qui a parlé du pubertaire en disant que le pubertaire est au fonctionnement psychologique, que la puberté est au corps. Bon, pas besoin de vous faire un dessin sur les changements corporels. Mais qu'est-ce que provoque la puberté ? La puberté, elle va provoquer trois choses essentielles dans le psychisme. Je suis psychiatre, donc je vais m'occuper du psychisme et pas de la transformation corporelle, même si parmi vous, il y a des éducateurs. Et il est très important avec les adolescents de prendre en considération le corps, leur corps, et de pouvoir avoir un regard, je dirais, amical, un regard bienveillant sur leur corps, et de pouvoir arriver à parler avec eux de leur corps, alors même que justement, ils ont une forme de pudeur, de crainte face à ce corps qui devient un peu, qui se transforme, qui devient étranger. Et il est souvent très difficile de parler de leur corps d'emblée comme ça. Mais en même temps, c'est une position que j'ai, et là, ça n'a pas changé, ne jamais parler de son corps à un adolescent, comment tu te sens, comment est-ce que tes boutons d'acné, etc. Ne jamais parler de son corps à un adolescent, c'est, je pense, passer à côté de quelque chose. Ce n'est pas par hasard si très souvent, dans les institutions, l'infirmerie et l'infirmière est fréquentée de manière assidue par bon nombre d'adolescents, parce que c'est justement un lieu où ils peuvent parler de leur corps. Donc, je laisse de côté cette histoire du corps, bien qu'elle soit pour moi très importante, et c'est peut-être un des problèmes des psys, psychologues, psychiatres, et aussi éducateurs spécialisés, que de trop souvent laisser le corps de côté, y compris et peut-être surtout chez les adolescents difficiles. S'occuper d'un adolescent difficile, c'est peut-être aussi d'abord avoir de la considération et de la bienveillance pour son corps et lui réapprendre à avoir de la bienveillance pour son corps. La manière dont un adolescent traite son corps est très souvent à l'image de la manière dont il traite les autres. On ne peut pas traiter les autres de manière bienveillante si on maltraite son corps. Et quand on traite son corps de manière bienveillante, on a plutôt tendance avoir une certaine bienveillance à l'égard des autres. Ce n'est pas totalement parallèle, mais c'est quand même assez vrai. Donc c'est pour ça qu'avec les adolescents difficiles, je pense que le soin du corps est un soin absolument essentiel qu'il ne faut pas méconnaître et qui, de mon point de vue, dans l'école française, des psys, etc., est trop souvent méconnu ou méprisé. Est-ce qu'il y a des infirmiers, infirmières parmi vous, là, ici ? Bon, écoutez... C'est quelque chose que vous devez diffuser, en tout cas pour les infirmiers et infirmières, évidemment, c'est une évidence, mais qui doit être prise aussi en considération par les autres. Bon, ces propos sur le corps étant derrière nous et étant dit, je pense que je ne reviendrai pas dessus. La puberté sur le plan psychique, qu'est-ce que ça provoque à l'adolescent ? Ça provoque trois choses essentielles. Ça provoque d'abord une excitation. Une excitation avec... une tendance bouillonnante intérieure et une excitation qui vient de l'intérieur du corps et qui ne vient pas seulement de la réalité extérieure. En général, l'excitation provient, chez l'enfant en particulier, de la réalité extérieure quand cette réalité n'est pas conforme à ce qu'on aimerait, quand cette réalité refuse ce qu'on a envie, quand cette réalité est contraignante. Alors ça peut énerver, etc., etc. Donc l'excitation, la plupart du temps chez l'enfant et chez l'adulte qui est un peu sorti de la puberté, provient de l'extérieur. Il est confronté à une contrainte, etc. En revanche, à l'adolescence, l'excitation provient de l'intérieur du corps. C'est le corps lui-même qui est excité. Et le corps, il a une espèce de trop-plein d'énergie qu'il cherche à évacuer. Et bien évidemment... un des problèmes majeurs de l'adolescence, ça va être la tolérance à supporter cette excitation. Ce que on peut traduire de manière différente, on dira la tolérance à la frustration. Sauf que cette fois, la frustration ne vient pas de l'extérieur, c'est plus la réalité qui refuse, c'est le corps qui est excité intérieurement et qui ne trouve pas tout de suite l'objet qui va l'apaiser. Parce qu'en même temps, 13, 14, 15 ans, les jeunes ne savent pas très bien comment satisfaire cette excitation. Alors bon, ils ont lu des livres sur la sexualité, etc., mais malgré tout, ils sont encore un petit peu hésitants, ils ne savent pas trop, et puis de toute manière, ils ne trouvent pas tout de suite la voie de la décharge, pour prendre un jargon psychanalytique. Donc la première chose, c'est l'excitation et la capacité de tolérer cette excitation. Et effectivement, cette capacité sera d'autant plus satisfaisante que l'adolescent aura appris dans son enfance à tolérer la frustration, de ne pas tous avoir dans l'immédiat, de pouvoir attendre. Et il y a donc, face à cette tolérance à la frustration et de tolérance à l'excitation, qui sont deux choses un peu pareilles, mais un peu parallèles, pas tout à fait identiques. Tolérer l'excitation, tolérer la frustration, c'est deux choses un peu parallèles. Il y a deux manières de gérer ça. Vous le connaissez en tant qu'éducateur, c'est ce que vous pratiquez. Une manière que vous pratiquez, une autre que peut-être plus les psys pratiquent, c'est être capable d'attendre des jours meilleurs. C'est l'attente, prendre son mal en patience. Et vous savez que les adolescents difficiles, ils ne savent absolument pas faire ça. Et la deuxième chose, c'est déplacer l'excitation sur un autre objet. Se mettre à taper dans un ballon, faire de la musique très fort, faire des rodéos de voiture, etc., etc. C'est-à-dire déplacer son excitation sur un autre objet, plus ou moins alors un objet physique, un objet intellectuel, un objet artistique, qui permet effectivement à cette excitation de passer. Citer deux choses. Par exemple, passer de l'excitation peut très bien se déverser dans un jeu de batterie. La batterie est un type d'instrument qui permet justement d'évacuer l'excitation. Tout comme, effectivement, branler sa souris. J'ai fait exprès dire la souris ou branler son... Voilà, et dans cette espèce de frénésie d'informatique avec les jeux, etc. Voilà deux manières de déplacer l'excitation sur un autre objet. Un des enjeux du travail éducatif, c'est avec les adolescents de trouver justement, les adolescents difficiles, de trouver des objets, des activités qui leur permettent de déplacer l'excitation. Ceux qui peuvent tolérer l'excitation, tolérer la frustration, peuvent attendre des jours meilleurs. Et je vous signale par exemple que le travail psychologique, psychothérapeutique, c'est rien d'autre que d'être capable d'attendre, investir l'attente comme moyen d'apaisement. Mais pour ça, ce n'est pas toujours facile et bien des adolescents difficiles ne le peuvent pas. Donc une excitation envahissante, et ça n'a pas changé, c'était déjà comme ça il y a plusieurs siècles. Du temps d'Hésiode et du temps de Platon, c'était ça qui poussait les adolescents à être dans cette forme d'impertinence, etc. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, qu'est-ce que fait cette puberté et cette excitation ? Elle transforme le corps. Elle transforme le corps et effectivement, bon, c'est la puberté. Et d'une certaine manière, cette transformation du corps, elle est une attaque du sentiment d'identité. Car jusqu'à preuve du contraire, une grande partie de notre identité est liée à notre corps. Notre corps, c'est au fond notre véhicule identitaire. Et quand on change de corps, quand on change l'aspect du corps, on menace la solidité et la stabilité identitaire. Donc c'est ce qu'on appelle une fragilité identitaire à l'adolescence. Alors comment l'adolescent qui va bien gère cela ? L'adolescent qui va bien gère ce temps de fragilité où son image de corps va changer grâce au fait que son socle identitaire, son socle qu'on pourrait appeler narcissique pour faire simple, son socle d'identité reste le même. Voilà. C'est grâce à cette stabilité narcissique que l'adolescent va pouvoir tolérer et supporter la transformation transitoire de son corps. Je compare cela, je donne souvent une image, l'image d'une statue datant du 19e siècle. Toutes ces statues étaient érigées sur des socles pour qu'on les voie de loin. eh bien, on pourrait dire que le socle, c'est la base narcissique de l'identité, et la statue, c'est la forme de l'identification telle qu'on peut l'avoir. On reconnaît la statue, on reconnaît la personne. Voilà. Et c'est la conjonction qui fait l'ensemble. Eh bien, effectivement, si le socle est solide, même s'il y a un petit choc, une voiture qui cogne un peu le socle, la statue va trembler un petit peu, mais elle restera sur son socle. Donc c'est ce qui se passe chez les adolescents qui vont bien. Il y a un tremblement identitaire, mais il y a un socle qui résiste. Si en revanche le socle est fragile, pourri, etc., le moindre tremblement, le moindre choc va faire effondrer la statue parce que le socle va se casser. C'est exactement ce que vous voyez avec les adolescents difficiles qui souvent souffrent d'un socle identitaire, d'un socle narcissique extrêmement fragile, et l'ébranlement pubertaire fait vaciller l'ensemble de la statue avec les angoisses, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire un dessin, vous connaissez cela. D'où effectivement l'importance de travailler ce narcissisme. Et une des dimensions du narcissisme, c'est précisément de travailler le bien-être dans le corps et le souci qu'on peut avoir à faire en sorte que le corps soit bien soigné, que les boutons d'acné soient bien traités, qu'il y ait une bonne alimentation, etc., etc. Ce soin du corps est un élément, c'est un soin bienveillant, hein, pas un soin persécutif. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que dans toute puberté, dans toute adolescence, il y a une attaque du sentiment d'identité. Le sentiment d'identité va vaciller. Et malheureusement, seuls ceux qui ont une base narcissique solide vont traverser cette phase sans trop de dégâts. Et plus la base narcissique est fragile, plus ce vacillement identitaire lié à la transformation du corps va être perçu comme dangereux et angoissant. Ce n'est pas par hasard si les attaques du corps, les scarifications, les maltraitances du corps sont extrêmement importantes, parce que ce corps est vécu par les adolescents qui ne vont pas bien comme le facteur qui les déstabilise, l'excitation interne, le corps qui se transforme, etc., etc. Donc, c'est une véritable injustice, mais c'est comme ça. Troisième axe qui, je pense, reste identique, c'est qu'effectivement, l'excitation, la transformation du corps, tout ça, ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à l'irruption de la sexualité dite génitale. La sexualité dite génitale, c'est la relation sexuelle accomplie avec un autre, d'un sexe différent ou du même sexe, mais avec un autre. Cette sexualité génitale, elle est recherchée par l'adolescent à partir de l'âge de 15-16 ans, d'abord dans son imaginaire, à travers ses rêveries masturbatoires, et puis petit à petit, à travers effectivement la recherche d'un petit ami, d'une petite amie, etc., etc. Sauf que, l'adolescent prend conscience de deux choses. D'une part, les personnes qu'il aimait et les personnes qui jusque-là pouvaient le satisfaire et l'apaiser, à savoir ses parents, ne peuvent plus le satisfaire et ne peuvent plus l'apaiser. Et d'ailleurs, plus il s'approche de ses parents, CSES, plus l'adolescent s'approche de ses parents, moins il a le sentiment que ses parents le comprennent et plus ça l'excite, ça l'énerve. Parce qu'effectivement, précisément, les parents ne peuvent plus donner à leur adolescent ce dont il a besoin pour être apaisé. Si quand l'enfant, il pouvait recevoir de ses parents ce qui pouvait l'apaiser, un enfant en colère, on peut lui faire un câlin, on peut lui faire un bisou, on peut lui donner à la limite ce dont il avait envie, et ça l'apaise. Un adolescent qui est excité dans son corps, ça ne va pas l'apaiser si le parent le prend sur les genoux et se met à le caresser. Ça va au contraire l'énerver et l'exciter. Parce qu'effectivement, ça le renvoie à une proximité qu'on dit, nous, les psys, qu'on dit incestueuse ou incestuelle, et qu'effectivement, sauf à, pour le parent à avoir une relation incestuelle, effectivement, ça n'est pas possible. Donc l'adolescent doit, qu'il le veuille ou pas, prendre de la distance avec ses parents. Et les parents, qu'ils le veuillent ou pas, ne peuvent plus, dans tous les domaines, apaiser et satisfaire l'adolescent. Les parents deviennent nécessairement insatisfaisants. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point essentiel, c'est qu'avec cette excitation, l'adolescent va chercher à l'extérieur et va tenter de trouver chez un autre quelqu'un qui puisse répondre à son besoin. Mais l'adolescent fait d'un seul coup, la découverte de quelque chose d'absolument terrible pour lui, c'est que l'adolescent va se mettre à dépendre du désir de l'autre. Il va se mettre à dépendre du désir d'un autre, et en plus d'un autre étranger, puisque je vous ai dit qu'il ne pouvait plus trouver ça chez papa-maman, donc d'un autre étranger dont il ne connaît pas très bien le désir. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon psychanalytique l'altérité du désir. L'autre devient énigmatique et on ne sait pas trop s'il a un désir réciproque au nôtre. Et donc il faut se confronter à cette altérité du désir et d'autre part au fait qu'il y a une dépendance au désir de l'autre. L'être humain entre dans la dépendance au désir de l'autre et d'un autre étranger qui n'est pas papa-maman. Devenir adolescent, c'est devenir dépendant du désir de l'autre. C'est exactement le contraire que la société raconte, les mensonges que la société raconte. Quand tu deviendras adolescent, quand tu deviendras adulte, tu feras ce que tu voudras. Est-ce que quand on devient adulte, on fait ce qu'on veut ? Dites-moi deux secondes. Or, effectivement, beaucoup de parents qui sont souvent en conflit avec leurs enfants quand ils grandissent, quand tu auras 18 ans, tu feras ce que tu voudras. Voilà. C'est vraiment la pire des bêtises que de dire ça. Quand tu auras 18 ans, tu seras confronté à la dépendance au désir des autres et à la dépendance à les relations sociales, etc. Bien plus qu'aujourd'hui que tu es enfant ou tu es avec des adultes qui ont quand même, dans la grande majorité des cas, le souci de te satisfaire. Au fond, quand vous devenez à 16 ans, 17 ans, 18 ans, les adultes qu'on va rencontrer ou les adolescents qu'on rencontre n'ont pas comme seule priorité de satisfaire tous nos caprices. Alors effectivement, devenir adolescent, c'est un, se confronter à l'altérité du désir et deux, se confronter à la dépendance au désir de l'autre. On dépend du désir de l'autre. Donc deux choses extrêmement douloureuses. Douloureuses pour qui ? Douloureuses pour l'adolescent individu. L'adolescent individu. Deuxième fois que je prononce ce mot individu. Avant d'aborder ce que je vais dire ensuite, je voudrais faire un tout petit détour, mais Elisabeth Martin en parlera certainement longuement et qu'on ne peut pas tout aborder, un tout petit détour par les changements au niveau de la famille. Donc là, je vous ai abordé dans un premier temps ce qui ne change pas à l'adolescence. Je pense que l'excitation, la transformation pubertaire avec le vacillement identitaire, la découverte de la dépendance au désir de l'autre et de devoir en passer par un autre pour obtenir sa satisfaction, ça a toujours existé. Et les adolescents ont toujours dû faire face à ça, plus ou moins. Et maintenant, effectivement, on va voir ce qui a changé dans la position des adolescents aujourd'hui. Du côté de la famille, j'ai dit tout à l'heure brièvement ce qui n'avait pas changé, mais il y a des choses énormes qui ont changé. Je ne vais pas vous faire un dessin sur la sociologie de la famille et de l'explosion de la famille, d'une famille très hiérarchique et pyramidale, avec la figure du père comme incarnation. Incarnation de quoi ? Non, incarnation avant 1970, ça s'appelait comment ? Comment ? Non, ça c'est le pater familias, c'est l'expression latine qui est symbolique comme ça. Mais ce pater familias, il s'exprimait comment ? En particulier aux yeux de la loi. Non, dans la loi avant 1970, c'était quoi ? De quoi le pater familias jouissait-il pour exercer la puissance paternelle ? La puissance paternelle. Vous voyez que c'est quand même assez fascinant que dans un amphithéâtre de 90 personnes travaillant dans le domaine éducatif et social, on est à ce point oublié, il y a 2-3 personnes qui s'en souvenaient, on est à ce point oublié qu'avant 1970, c'était la puissance paternelle. Il n'était même pas question d'autorité. Et là, on va toucher tout à l'heure ce que... Comment ? Ah ben, si vous dites ça, mais il ne faut pas s'étonner après de ce que j'appellerais les dégâts collatéraux ou les problématiques collatérales, pour ne pas dire dégâts, les problématiques collatérales. La puissance paternelle, Vous voyez tout de suite le mot puissance. Puissance, pouvoir. Alors, il y avait paternel. Le père avait la puissance paternelle. Ce qui veut dire en clair que sa femme... femme, tiens, à propos, femme. Ah, femme. Alors, 2002, le Larousse, dictionnaire Larousse, femme, première définition de femme. 2002, femme, être humain de sexe féminin. Les féministes américaines diront qu'on ne sait pas ce que c'est que le sexe féminin. Mais bon, admettons, femme, être humain de sexe féminin. Bon, on peut à peu près globalement être d'accord. 1902, un siècle avant, 1902, femme, première définition. Épouse du mari. Pourquoi épouse du mari ? Une femme, un être humain de sexe féminin de 25 ans qui n'était pas marié, c'était une vieille fille. C'est-à-dire qu'un être humain de sexe féminin n'existait que dans son rapport social. Un être humain de sexe féminin qui n'était pas marié, c'était une vieille fille, la fille de son père. Elle était sous l'autorité du père. Un être humain de sexe féminin qui se mariait était sous l'autorité du mari, épouse du mari. Je ne crois pas qu'il y ait de mots aussi banals dans la langue française qui a à ce point changé de définition en moins d'un siècle. Et derrière ça, il y a effectivement la puissance paternelle. D'une manière générale, ce n'est pas vous qui parlez, ce sont les mots qui vous parlent. Ce sont les mots qui disent les choses. Et ils disent en général plus de choses que ce que vous croyez que vous êtes en train de dire. Donc quand vous lisez des romans de Balzac et que vous voyez le mot « femme », ce mot-là n'a pas le même sens que quand vous lisez un roman contemporain. Voilà, il faut... Donc, apparemment, la puissance paternelle. La femme était soumise, l'épouse était soumise à son mari. Je vous rappelle qu'elle n'avait pas le droit de travailler sans l'autorisation du mari, qu'elle n'avait pas le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation du mari, etc., etc., etc. Et a fortiori, les enfants étaient sous l'autorité du père et par délégation du père, sous la maman, qui exerçait son autorité par délégation du père. Voilà. Avec la loi de 70, on a rayé la puissance paternelle pour mettre autorité parentale. Et comme il y avait des parents qui divorçaient, parce qu'en même temps, l'État a créé le divorce par consentement mutuel. Tout ça, c'était en même temps, dans les années 70-75. Le divorce par consentement mutuel, c'est l'État qui renonce à légiférer quand deux adultes ont décidé de se séparer. Deux adultes ont décidé de se séparer, eh bien, l'État renonce. Et si vous êtes d'accord pour vous séparer, le juge des affaires familiales entérine la chose, vérifiant simplement que ça a été à égalité et qu'il n'y en a pas un des conjoints qui se fait avoir par l'autre. Et dans ces cas-là, vous divorcez et l'État n'a rien à dire. Et le juge des affaires familiales n'a pas à demander les raisons de cette séparation. Il doit la boucler. Il doit faire le constat de la séparation. Il doit simplement vérifier qu'il n'y a pas un désavantage de l'un par rapport à l'autre. Voilà. Et donc l'État renonce à exercer son pouvoir sur le couple conjugal, ce qui était le cas avant. Et en même temps que l'État renonce à exercer son pouvoir sur le couple conjugal, l'État modifie la puissance paternelle pour en faire une autorité parentale. Et rapidement, une autorité parentale conjointe, parce que dès que papa et maman se séparent, qui a l'autorité, etc., etc., et ça va être un problème compliqué. Mais il ne suffit pas, dans un noir, de supprimer puissance paternelle pour mettre autorité parentale conjointe, pour transformer dans la tête des gens le concept même d'autorité. Et le concept même d'autorité, il est précisément englué dans le changement d'appellation puissance paternelle, autorité parentale. C'est passer de la problématique du pouvoir à la problématique de l'autorité. Sachant que le pouvoir, et là je dis simplement le pouvoir, s'exerce par la position hiérarchique haute, c'est celui qui a la position de pouvoir. Mais il y a deux sens dans le pouvoir, le mot pouvoir en latin, possess et potes. Possess et potes. Potes, c'est posséder. posséder. Le pouvoir, celui qui possède le pouvoir. Et possesse, c'est rendre possible, avoir le pouvoir de rendre la chose possible. Vous voyez très bien que c'est deux conceptions très différentes du pouvoir. Posséder la chose ou faire en sorte que l'autre puisse accéder, rendre possible que l'autre puisse faire ceci ou cela. Donc il y a le pouvoir de la possession et le pouvoir de la possibilité, rendre la chose possible. En l'enseignant, j'ai le pouvoir de permettre aux enfants d'apprendre à lire et à écrire, de leur rendre la possibilité de lire et d'écrire, et non pas de posséder l'autoritarisme de ma position. Quand on dit pouvoir, on confond possession et possibilité. L'autorité, comme l'a dit très bien Max Weber, l'autorité, elle ne s'exerce que dans le cadre d'une forme de légitimité. De légitimité, c'est par définition la légitimité, c'est la reconnaissance. Quand on dit que quelqu'un est légitime, c'est qu'on lui reconnaît quelque chose. Le tyran n'a pas besoin de légitimité. Il exerce son pouvoir et sa tyrannie sur les autres. Le despote aussi. Celui qui est le pater familias despote, il s'en fout, il n'a pas besoin de reconnaissance. En revanche, la légitimité exige la reconnaissance de l'autre. Et c'est peut-être toute la difficulté de l'autorité. Pour simplement, puisque ça a été évoqué, le pouvoir, en particulier le pouvoir de la possession, s'articule à la soumission. On doit se soumettre. On doit se soumettre à l'autre, au pouvoir. Mais il est très fondamental de bien comprendre, et c'est toute mon argumentation sur les trois livres qu'a évoqué Elisabeth Martin, il est fondamental de comprendre que la soumission, le pouvoir exige la soumission, laquelle soumission s'obtient de deux manières fondamentales. Elle s'obtient soit par la force, soit par la séduction. Allez, mon chéri, s'il te plaît, tu sais, maman, tu fais plaisir à maman, etc., etc. Et quand on ne peut plus exercer le pouvoir par la contrainte ou par la force, on tend à exercer le pouvoir par la séduction. Mais la séduction, c'est une soumission. On se soumet à la séduction. Ce n'est pas une autorité. C'est le contraire. Quel est le contraire du mot séduction ? C'est un peu vicieux ce que je suis en train de vous dire, mais bon, c'est par rapport à l'étymologie. Séduction, c'est ducare, il y a deux sens, conduire à l'écart ou conduire à soi, amener à soi. C'est ducare, amener à soi, séduction. Et l'autre étymologie, ex ducare, conduire à l'extérieur, qui donne éducation. Donc les ex ducare, éduquer, c'est le contraire de séduire, conduire à soi. Toute séduction enferme l'enfant dans un rapport à soi illusoire qui est le contraire de l'éducation. Dans les adolescents difficiles dont vous vous occupez, très souvent dans son histoire d'enfance, soit il était contraint par la force et la violence, soit il était contraint par la séduction et l'embobinement, parfois même en alternance. Ces enfants devenus adolescents, n'ont aucune notion de ce qu'est l'autorité. Ils ont seulement la notion de ce qu'est le pouvoir de la contrainte sur l'autre. Et comme ils ont subi pendant 12, 14, 15 ans cette contrainte, dès qu'ils en ont compris les ressorts, évidemment, et dès qu'ils ont une force physique ou une beauté physique qui leur permet d'en profiter, ils vont utiliser soit la force, soit la séduction pour parvenir à leur fin. C'est exactement ce à quoi vous êtes confrontés avec les adolescents difficiles. Mais c'est pas, ils n'ont jamais connu l'autorité avant. Jamais. Donc effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans un... Alors, qu'est-ce qui a changé dans les familles du fait de tout cela ? Effectivement, ce qui a changé, c'est les séparations parentales très fréquentes. C'est le fait que très souvent, un parent se trouve seul pour élever durablement un enfant. et à ce parent, c'est dans 95% des cas la mère, que la mère ne voulant... C'est que d'autre part, socialement, et ça c'est très bien, je suis le premier à le défendre, socialement et culturellement, on réprouve énergiquement toute mode de violence physique sur l'enfant. Or, beaucoup de parents et de personnes confondaient la violence physique avec l'autorité. La violence physique, c'est le pouvoir de contrainte d'un adulte sur le corps d'un enfant. Chaque fois qu'on exerce la contrainte physique sur le corps d'un enfant, on est dans un rapport de pouvoir. Comme hélas, souvent la contrainte physique se doublait d'une violence physique, parce qu'on peut faire une contrainte physique sans nécessairement faire mal à un enfant. C'est peut-être une problématique essentielle. On confondait souvent contrainte physique et maltraitance. On a effectivement, à juste titre, dénoncé les effets calamiteux de la maltraitance. Le problème, c'est que la plupart des adultes qui se sont vus retirer ce pouvoir sur l'enfant, le pouvoir de la contrainte et le pouvoir de la force, pour obtenir de leur enfant qu'ils fassent à peu près ce qu'ils veulent, de quel côté ils se sont tournés ? Du côté de la séduction. Mais la séduction, ça n'est pas l'autorité. C'est le pire des pouvoirs. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus parce que j'en aurai pour 3 heures à vous en raconter des vertes et des pas mûres. Bon, alors, je dirais, puisqu'Elisabeth me dit que j'ai le temps, je dirais qu'effectivement, quand on exerce le pouvoir sur un enfant, bah, il n'est pas très... Par la force, évidemment, il le ressent, il rentre la tête dans les épaules, et dès qu'il devient plus fort que ses parents, eh ben, il va avoir tendance à exercer lui-même aussi la force sur ses parents. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de parents, quand leur enfant devient plus grand qu'eux-mêmes, en particulier le garçon, ils ont peur de se faire maltraiter. Et vous savez comme moi qu'un certain nombre d'adolescents difficiles se montrent violents avec leurs parents. Après avoir subi les violences parentales, l'adolescent, quand il veut obtenir raison, bah, il contraint ses parents par la force. Retour de bâton. Le pouvoir par la force entraîne la révolte. On se révolte et pour effectivement sortir de cette contrainte par la force. Simplement, je considère que la révolte n'est pas un acte de liberté. De liberté. C'est l'acte de celui qui n'en peut plus et qui n'a plus d'autre solution que de se révolter. Et bien entendu, on se révolte en attaquant le tyran, en essayant de le poignarder, de le tuer, de l'empoisonner, etc. C'est pour ça que tous les tyrans ont la peur de se faire poignarder ou de se faire empoisonner, parce qu'ils savent bien que la contrainte violente qu'ils exercent sur les autres, un jour, risque de se transformer en leur contraire. La séduction, c'est plus malin, c'est plus subtil. Quand on exerce le pouvoir par la séduction, on embobine l'autre, on lui dit mon amour, mon chéri, on fait du chantage à l'émotion, à l'affect, du chantage à l'amour. Ça marche très bien, ça, la séduction. Mais effectivement, très rapidement, l'enfant prend conscience que quoi ? Quand on est l'objet d'une séduction, à un certain moment, surtout quand cette séduction consiste à embobiner l'autre pour en profiter, aussi bien physiquement, sexuellement, financièrement, etc., on se rend compte à un moment qu'on s'est fait avoir. Il m'a eu. La première chose, quand on a pris conscience qu'on s'est fait avoir, on s'en veut à soi-même. Donc on est en colère après soi-même. Et la deuxième chose, soit on utilise la séduction pour avoir l'autre, pour l'embobiner. Tu m'as eu, et bien maintenant je vais te montrer. Moi aussi je vais être dans la séduction. Soit on utilise le pouvoir, voire la rage, pour sortir de cette situation infernale. Et donc, effectivement, dans l'utilisation de la séduction au plan éducatif, il y a effectivement des engrais, des mines, des bombes à retardement. Là, je me fais avoir, maintenant je ne me ferai plus avoir, et soit j'embobine les autres, soit je réagis par la force. C'est un des problèmes majeurs aujourd'hui, au niveau des adolescents difficiles, c'est qu'ils ont bien compris dans la société que, un, le pouvoir de la force et de la contrainte physique était interdit, et d'une certaine manière, ces adolescents n'ont plus peur des adultes, puisqu'ils n'ont plus peur qu'on les maltraite. Mais en revanche, ils ont souvent été embobinés par la séduction. On leur a fait des promesses intenables. Et effectivement, ça les met en colère et ça les met dans tous leurs états. Et souvent, ça déclenche cet affect dont je pourrais parler, qui s'appelle la rage, qui a été l'objet de mon précédent livre. En tant qu'éducateur, vous êtes au cœur de cette problématique thermonucléaire. Parce que vous savez très bien que le rapport de séduction, c'est un rapport à la fois qui peut ponctuellement et dans l'instant vous être utile, et en même temps, chaque fois que vous utilisez ce rapport de séduction, vous vous pourrissez la vie pour l'épisode suivant. Et c'est ça qui est très difficile. Et Dieu sait si, dans le monde éducatif, on a tendance à utiliser la séduction, qui n'a rien à voir avec l'autorité. Pouvoir, soumission, soumission par la force ou par la séduction. Autorité, obéissance, obodire, tendre l'oreille. Obodire, obéissance, tendre l'oreille, ce qui signifie déjà que celui qui accepte d'obéir accepte d'écouter l'autre. D'écouter l'autre. Accorde à la parole de l'autre quelque chose. Il n'y a pas d'obéissance sans langage. Le pouvoir, c'est une affaire de posture, de contrainte, de soumission. Quand on se soumet, on s'écrase. Quand on est dans un rapport d'autorité, on se parle. Et on accorde la capacité de s'écouter l'un l'autre, donc d'accorder obodire, obéissance. Si j'ai dit tout à l'heure que pouvoir, soumission, soumission par la force ou par la séduction, et sortir de la soumission, c'est la révolte. On se révolte. On se révolte contre la force ou on se révolte contre la soumission. Pouvoir, obéissance, tendre la main. Et quel est le troisième terme pour sortir du rapport pouvoir-obéissance, comme la révolte permet de sortir du rapport pouvoir-soumission? Quel est le troisième terme? Un monsieur réfléchit, à une quarantaine d'années, il réfléchit sur son adolescence. Et il dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? J'avais 14-15 ans et je traînais dans le village avec les jeunes qui traînaient la nuit, souvent un peu des voyous. Et qu'est-ce qui m'a pris d'aller avec eux et d'aller prendre toutes les poires du poirier du voisin? Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'était pas pour les manger. Bah, d'abord, on les achetait, ces poires. On les a données aux cochons. Et puis, en plus, moi, j'avais plein de poiriers dans mon jardin. J'avais autant de poires que je voulais. Donc, c'était pas pour ça que j'ai fait ça. C'était. Alors, est-ce que c'était aussi pour voir la tête du propriétaire du poirier le lendemain, qui serait bien triste de plus avoir de poire? Peut-être un petit peu, parce qu'on ne l'aimait pas trop, c'était quelqu'un de casse-pied. Mais franchement, ce n'était pas suffisant. Mais pourquoi j'ai fait ça? En fait, j'ai fait ça parce que j'ai eu honte d'avoir honte. J'ai eu honte si je disais à mes copains que je ne voulais pas le faire, ils me feraient la honte et ils me diraient « ouais, ouais, qu'est-ce que c'est ?» etc., etc. Est-ce que vous savez de qui je parle? Je parle de saint Augustin, les mémoires, chapitre 2, l'adolescence ou la jeunesse. Dans saint Augustin, on disait pas l'adolescence, on disait la jeunesse. Il y a donc 1600, un peu plus de 1600 ans, 1700 ans. Qu'est-ce que c'est que l'adolescence? L'adolescence, c'est la capacité, en fonction de sa propre raisonnement, d'obéir à sa conscience, et de dire non, je ne vais pas aller dévaliser la vieille dame et aller la tuer, ou je ne vais pas aller violer, etc. D'obéir à sa conscience et de désobéir à la loi du groupe, ou c'est d'obéir à la loi du groupe et de désobéir à sa conscience, par exemple pour saint Augustin, d'aller piquer les poires, ça c'était quand même pas un acte très grave, donc il a pensé que l'alliance avec les pères, PAIRS, était plus importante que de se désolidariser d'eux. Vous remarquerez que les adolescents difficiles sont incapables de désobéir à la loi du groupe mais qu'ils ne cessent de désobéir à la loi sociale ou à leurs parents. Donc ils sont soumis à la loi du groupe, d'une soumission. Le jour où ils peuvent commencer à se désolidariser de la loi du groupe et à penser par eux-mêmes, ce jour-là est un grand progrès. Donc vous voyez que effectivement, dans le couple obéir, dans le couple autorité-obéissance, le troisième terme, c'est désobéissance. La désobéissance, elle n'est pas contre quelqu'un. Elle est en général pour acquérir une liberté plus importante ou un rapport avec sa pensée, etc. Voilà, on a des convictions, on désobéit. Seuls les pères qui ont une forme d'autoritarisme considèrent que tout acte de désobéissance, c'est un acte de désaveu de leur propre autoritarisme. Rien n'est pire que l'autoritarisme. L'autoritarisme exige toujours l'obéissance. Et ce toujours, c'est l'estampille de l'autoritarisme. L'autorité exige l'obéissance jusqu'au point où l'adolescent ou l'enfant peut s'autoriser à désobéir. Le paradoxe absolu de l'éducation contemporaine, c'est d'apprendre à un enfant à obéir jusqu'au point où il peut s'autoriser de désobéir. C'est ça le paradoxe. L'injonction paradoxale serait « je t'ordonne de désobéir », évidemment. Hein, vous savez. Donc il n'est pas question de dire à un enfant « je t'ordonne de désobéir ». On pourra revenir là-dessus. Mais en fait, l'adolescent, le jeune grand enfant, peut s'autoriser à désobéir. Et d'ailleurs, un certain nombre de jeunes vous disent « oh là, j'ai fait une bêtise, mais alors j'ai été étonné, mon père ou ma mère ne m'a rien dit ». Ils m'ont dit « bon, voilà, pour une fois, ils ne m'ont rien dit », etc. En fait, quand un adolescent désobéit et fait quelque chose qui n'est pas dramatique, qui ne met pas sa vie en danger, la plupart des parents disent « bon, bah, fais attention quand même, je ne suis pas très content, mais fais attention à toi, etc. » et n'en font pas tout un drame. Seul le parent autoritaire considère que par cet acte de désobéissance, il y a un désaveu de sa posture d'autoritarisme. Donc c'est ça la difficulté de l'autorité, j'y reviendrai là-dessus. Donc effectivement, dans notre société, il y a des changements extrêmement importants dans l'organisation familiale. Et dans le registre de la séduction dont j'ai beaucoup parlé, il y a un élément essentiel qui est lié à la vulnérabilité et la fragilité des couples. Tous les sociologues le disent. L'indissolubilité, c'est un mot un peu compliqué à prononcer, l'indissolubilité est passée du lien conjugal au lien de filiation. On ne divorce jamais de ses enfants. En revanche, on divorce de ses conjoints dans des tranches de vie, etc. De ce fait, du fait de l'indissolubilité et du fait que effectivement le lien parent-enfant devient un lien indéfectible, on pourrait dire que c'est les enfants qui ont autorité sur les parents. Plus exactement, les enfants ont autorité sur la parentalité. La parentalité, c'est la compétence de l'adulte au service du développement de l'enfant. Et d'une certaine manière, c'est l'enfant qui fait la parentalité de son parent. Alors que dans le système de parenté, c'est le parent qui fait l'enfant. Dans le système de parenté, l'autorité est au parent. Dans le système de parentalité, l'autorité est au besoin développemental de l'enfant. C'est-à-dire l'enfant, d'une certaine manière, on peut symboliser ça comme l'enfant. La parentalité, le parent se met au service des besoins développementaux de l'enfant. Et de ce fait, effectivement, l'enfant a autorité, d'une certaine manière, symbolique, sur la parentalité et par ricochet sur le parent. Donc vous voyez que tout ça est compliqué, extrêmement compliqué, et que tout ça est imbriqué. Alors dans tout ce contexte-là, au niveau de l'adolescent lui-même, quel est le changement qui, de mon point de vue, est mis en place depuis le début de ce siècle. Et c'est un petit peu ce par quoi je vais terminer. Si vous n'êtes pas trop fatigué. Ça va ? Oui, oui. Bon, moi je commence à être un peu fatigué parce que ça fait 6 mois et demi que je n'ai pas fait de conférence et que là je vous parle comme ça, sans notes, comme ça, en associant comme ça. Mais bon, on va tâcher. Je vais me boire un petit coup, tiens, pour me rafraîchir là.
On a encore une heure. Hein, donc...
Ah ouais.
On a encore une heure.
Vous avez peur que je tienne pas une heure ?
Non, non.
Elisabeth est bienveillante et tous, ils sont tous bienveillants avec moi. Bon, est-ce que vous avez envie de poser une question ? Une ou deux questions ? Il y a des audacieux qui... N'hésitez pas, hein. Ah, on passe le micro après, il y a un audacieux qui a dit, allez-y. Ah, non, je pense qu'il faut qu'il l'apprenne, pas, il faut qu'il apprenne lui à désobéir. Mais c'est pas apprendre à désobéir. Je donne souvent cet exemple. Alors, premièrement, l'autorité ne se conçoit que si et uniquement si il y a un rapport de confiance entre celui qui dit et celui qui écoute. Il ne peut pas y avoir d'autorité sans rapport de confiance entre celui qui dit et celui qui écoute. D'où vient cette confiance ? D'abord, confiance, ça veut dire cum fire, croire avec. Ça veut dire qu'on partage la même croyance, cum fire, croire avec. On a la confiance, c'est en quelque sorte la religion privative entre deux êtres humains. La religion religare, c'est ce qui nous relie ensemble. La religion, c'est la croyance commune que nous partageons. Religare, la religion. Et cum fire, la confiance, c'est quand on croit avec l'autre. On a la même croyance ensemble. Et on a confiance dans l'autre parce qu'on croit ensemble, on croit dans la parole de l'autre. Voilà, c'est ça la confiance. Alors comment cette confiance s'acquiert ? Eh bien, c'est pas un don du ciel, ni des chromosomes. C'est une acquisition progressive dans les relations précoces. Je vais vous donner un tout petit exemple. Je vais donner deux exemples de la vie quotidienne. Celui que j'appelle le square et celui que j'appelle le couteau, qui sont deux exemples très concrets qui montrent un peu pour répondre à la question de monsieur. Le square, c'est un enfant qui a 14-15 mois, et aux 14 mois, qui commence à marcher, qui marche depuis un mois, et le parent l'emmène dehors, il fait beau, comme ça, dans le square, pour profiter de la nature et profiter. Il arrive, il s'installe sur un banc, il y a une place, le parent, papa ou maman, ça m'est égal, il y a quelqu'un qui connaît, et le parent commence à discuter avec le voisin ou la voisine qu'il connaît. L'enfant est là, 14 mois, il regarde le bac à sable, il a la main posée sur le genou du parent. Et puis au bout de 2-3 minutes, il en a marre, il s'éloigne et il va vers le bac à sable. Arrivé à 2-3 mètres du bac à sable, il s'arrête, il se retourne et il cherche le regard parental. Il cherche le regard parental. Le parent qui parlait avec le voisin s'arrête de parler et dit à l'enfant, oui, avec le visage ouvert, les yeux, le front lisse, vas-y, tu peux y aller. Pourquoi le parent dit ça ? Parce qu'il est allé au square pour que l'enfant se débrouille, rencontre le monde, etc. On ne comprend rien à l'autorité, et vraiment rien à l'autorité, si on n'a pas d'abord compris que l'autorité, c'est une autorisation. Autorité, autorisation, c'est la même racine, c'est le même mot. C'est une névrose institutionnelle qui nous fait confondre autorité et interdit, et interdiction. L'autorité, c'est d'abord une autorisation. Il n'y a pas d'autorité sans autorisation. Une autorité qui ne fait qu'interdire, c'est une autorité hémiplégique. Donc l'enfant va avec le bac à sable, et puis très bien. Si jamais, de temps en temps, il y a des grands qui sont en train de se balancer du sable, ou qu'il y a des grands qui se bagarrent dans le bac à sable, quand l'enfant se retourne et cherche le regard parental, le parent fronce les sourcils, et dit à l'enfant, reviens ici tout de suite. Je vous pose la question, à 14 mois, est-ce que c'est une punition de revenir vers son parent ? En général, l'enfant revient tout de suite. Il revient, parce qu'il a, bon, les parents jouent au jeu de pointage, je ne vais pas entrer dans trop de détails, parce qu'on en aurait pour 3 mois. Acceptons cela, le parent. Et l'enfant revient. Et là, je dirais qu'il y a trois possibilités. Soit le parent dit, reste ici, bouge pas, et ne donne aucune explication. Et là, l'enfant est comme un petit chien dans un autoritarisme de soumission. Ce n'est pas vraiment d'autorité. Le parent n'a pas pris en considération la position de l'autre. Le parent est en train de discuter avec le voisin, l'enfant revient et le parent arrête de parler avec le voisin parce que dans la fois précédente, il avait continué à parler des prochaines élections, du match de foot avec le PSG. Enfin voilà, il s'intéresse à ce qui le passionnait et pas trop au gamin qui restait au pied. Là, il s'arrête de parler, il est frustré de la poursuite de la conversation. Et il dit à l'enfant, c'est bien, tu es revenu, écoute, regarde là, les autres, ils te lancent du sable, ils se bagarrent, tu risques d'avoir mal, et ça reste ici. Ça, c'est ce que j'appelle l'obéissance du névrosé. Il a obéi, il est revenu, mais c'est chiant. Il n'y a vraiment aucune jouissance ni aucun plaisir. C'est le névrosé, il obéit sans jamais avoir aucune récompense. Je vais prononcer... Parler un oxymore, un soleil noir, un silence assourdissant, un plaisir à obéir. Un oxymore. Peut-il y avoir un plaisir à obéir ? Le parent qui a permis à l'enfant, qui a dit reviens ici, l'enfant revient, il arrête de converser avec son voisin, il se frustre du plaisir de la conversation avec son voisin. Il dit à l'enfant, écoute là, allez, tu vois, tu ne peux pas aller dans le bac à sable parce qu'il y a les grands qui chahutent, etc. Allez, viens avec moi, on va aller faire un tour de toboggan. Ou viens avec moi, on va aller sur le tourniquet. Et le parent offre à l'enfant un plaisir transitoire, il est revenu, et il lui offre le plaisir de sa présence, et il détourne transitoirement son investissement sur le bac à sable pour investir autre chose. Être capable de désinvestir quelque chose qu'on ne peut pas réaliser tout de suite pour investir quelque chose qu'on peut réaliser en attente de pouvoir faire l'autre chose, c'est l'essentiel de la souplesse psychique qui manque cruellement aux adolescents difficiles et aux parents caractériels. Je ne pense pas qu'il y ait de chromosome de la souplesse psychique. Cette souplesse psychique, elle s'apprend. Voilà. Voilà ce que c'est que pour moi l'autorité. Alors, une petite remarque. Le parent est tellement passionné par sa conversation sur le PSG et sur Marseille ou par le port du masque à la con qui nous font chier avec le masque, etc., avec son voisin ou sa voisine, que quand l'enfant s'arrête et cherche du regard le parent... Le parent ne répond pas et continue la conversation. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là ? En général, l'enfant reste 30 secondes, une petite minute debout, et curieusement, il ne va pas vers le bac à sable. Curieusement. En général, il fait un quart de tour et il avance. J'aime à dire que c'est un enfant qui a perdu l'arrimage du regard parental. C'est un enfant qui n'est plus arrimé, qui erre. Et en général, d'un seul coup, le parent se tourne la tête et voit que l'enfant est presque à la sortie du square. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il se lève, il hurle à tout. Kevin, non, c'est un peu... Non, on va prendre un peu, parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui s'appelle Kevin, alors il faut faire gaffe, maintenant c'est devenu un prénom très commun. Comment ? Non, oui, enfin... Jean-Marie ! Joséphine ! Il ne faut pas être trop stigmatisant. Il hurle comme ça et il court après l'enfant. Et l'enfant, évidemment, a peur, il se met à courir. Et bien entendu, un adulte, en général, court plus vite qu'un enfant de 14 mois. Il l'attrape, il le secoue, il l'engueule, parfois il lève la main et il le ramène. Là où l'autorité est défaillante, c'est le pouvoir qui s'y substitue. On est dans une relation de pouvoir, on n'est pas dans une relation d'autorité. En fait, qui a autorité dans cette relation ? Est-ce que c'est le parent ou est-ce que c'est l'enfant ? Qui cherche le regard parental, c'est l'enfant. Et c'est la responsabilité du parent de répondre à l'appel du regard de son enfant. Ne pas répondre, c'est abandonner son enfant. Et évidemment, l'enfant va errer, et à ce moment-là, on reprend la main en utilisant la force et l'autorité, le pouvoir, et la force et le pouvoir. Le pouvoir d'attraper l'enfant et de le ramener manu militari. Mais là, l'enfant, qu'est-ce qu'il a appris ? Il a appris quelque chose d'essentiel. Il a appris le jeu « cours après moi que je t'attrape ». C'est en me mettant en danger qu'enfin on s'intéresse à moi. Vous voyez comme c'est subtil, comme c'est très intriqué, comme c'est très dépendant. Et que, évidemment, tout cela, ça se gère de manière presque silencieuse, sans en parler. Et pourtant, c'est profondément vrai. Alors, effectivement, cet enfant qui a appris qu'il est autorisé à aller dans le bac à sable, qui a appris que quand on lui demande de revenir, ben, c'est que ce n'est pas possible à ce moment, mais qu'on va aller faire du toboggan, etc., qui a donc développé une relation de confiance, confiré. Il sait que quand on regarde un adulte et son parent en particulier, on va obtenir une réponse satisfaisante. Et l'enfant va effectivement chercher le regard de l'adulte pour comprendre le monde, pour comprendre comment faire, pour que, voilà. Et en général, il en est content. Et alors que celui qui ne reçoit pas le regard compréhensif de l'adulte, ou celui auquel on dit « tiens-toi là, il ne bouge plus », forme d'autoritarisme, celui-là qui est dans la soumission, dès qu'il peut échapper, il va échapper. Pour répondre à la question de monsieur, et j'avance tout doucement, mais là je suis dans la question de l'autorité, mais c'est tellement lié à tout ce qu'on est en train de dire. Quelque temps plus tard, cet enfant de 24 mois, il est dans la maison et les parents ont des invités. Il y a un des parents qui est parti acheter les pizzas et l'autre qui est en train de mettre la table. Et le petit de 24 mois, il regarde, les parents ont mis les assiettes, il a mis les verres, il a mis les couverts et avec ce couteau pointu, couteau à pizza un peu différent des autres. Ah, l'enfant est très étonné de ce couteau, il prend le couteau à pizza. Et là, effectivement, le parent qui met le couvert, peut-être le moment où le papa voit que l'enfant a le couteau à pizza et dit... Pose ce couteau tout de suite. Il peut même, s'il est très civilisé, dire « Je te demande de poser le couteau tout de suite, s'il te plaît. » Voilà. Et l'enfant, qui a ce couteau étrange dans la main, regarde son parent et 99 fois sur 100 ne pose pas le couteau. Et là, il y a un moment de suspension. L'autorité, c'est l'abstinence de l'action. L'autorité, c'est accorder à l'autre la temporalité, une forme de temporalité. 10 secondes, 20 secondes se passent, je te demande de poser le couteau. L'enfant regarde le parent, et au bout de 30 secondes, là, il y a une voix qui se fait plus forte, qui est une injonction, pose le couteau tout de suite. Et là, il y a un miracle. Il y a un miracle, il y a un enfant de 20 mois, 24 mois, qui contracte les muscles extenseurs de ses doigts et qui pose le couteau sur la table. Pourquoi je dis qu'il contracte les muscles extenseurs de ses doigts ? C'est parce que dans cette interaction, l'enfant a eu l'autonomie du geste et l'autonomie comportementale. Il a accepté d'ouvrir la main et de poser le couteau. Il a été autonome dans sa gestualité. Autonome. Grand mot de l'éducation contemporaine. Autonome. Et le parent qui s'approche de l'enfant, là, en général, lui dit « C'est bien, tu as posé ton couteau, tu as eu raison ». Parce que tu vois, ce couteau, il est pointu, il coupe beaucoup. Quand tu seras grand, tu auras un couteau comme ça. Mais pour l'instant, tu as un couteau avec un bourron, etc. Et il lui donne une explication. Je ne veux pas que tu touches au couteau, etc. etc. Voilà. Eh bien, l'enfant a compris. Il a été enrichi d'un acquis. Il a compris que le couteau était un objet dangereux. Moi, ce n'est pas cette séquence qui m'intéresse. J'y reviendrai brièvement tout à l'heure parce que je vous montrerai un peu comment ça peut se décontextualiser. Mais c'est deux ou trois mois plus tard, nouvelle invitation, les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup de recettes en dehors des pizzas, donc ils ont racheté à nouveau des pizzas. Et je suis un peu un provocateur là. Et il y a ce fameux couteau qui est là. Et l'enfant qui sait que ce couteau est quand même il est quand même intéressé par ce couteau. Le parent est parti chercher les plats et il s'avance vers le couteau et avec son petit doigt, il touche le couteau. Le parent rentre et voit l'enfant qui touche le couteau, alors qu'il lui avait interdit. Deux possibilités. Si l'enfant est tellement occupé à toucher le couteau, le parent peut retourner dans l'autre pièce, et se et alors là, l'enfant est là. C'est ce que j'appelle l'hypocrisie sociale bien tempérée. Quand un enfant déroge ou désobéit gentiment sans que ça mette en péril l'institution, ou parfois c'est mieux de rien voir, de faire celui qui n'a rien vu. Parfois. Parce que quel est l'objectif de l'éducation ? Est-ce que c'est de protéger un enfant ou est-ce que c'est de lui apprendre à se protéger ? quand on est un parent abandonnique et angoissé à l'idée de n'avoir plus personne qui vous aime, protéger l'enfant ad vitam aeternam est une manière de le garder dans son sein. Apprendre à un enfant à se protéger lui-même, c'est prendre le risque que cet enfant s'en aille. Plus personne ne parle là, tiens. Alors évidemment, un bébé de 6 mois, il faut le protéger, mais il y a un moment, quand l'enfant acquiert une autorité, une autonomie motrice, une autorité motrice, allez tiens, mon lapsus veut, quand l'enfant acquiert une autorité motrice, c'est-à-dire une autonomie motrice, faire attention à maintenir cette autonomie motrice et respecter cette autonomie motrice, effectivement, et lui apprendre à se protéger, est peut-être plus important que de le protéger directement. Et donc, effectivement, voilà ce que c'est. Donc, le parent n'a peut-être pas besoin de faire acte d'autoritarisme. Bon, maintenant, l'enfant a les doigts sur le couteau et le parent rentre. Et les regards se croisent. Oh ! Alors, là, deux solutions. La solution, je t'ai interdit de toucher au couteau. File dans ta chambre. Autoritarisme. Exactement équivalent à la position, viens ici, bouge plus, tais-toi, pendant que je continue à parler avec le parent. Le parent qui juge que parent qui a de l'autorité et pas de l'autoritarisme. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Zoé ? Je t'ai dit qu'il ne fallait pas toucher au couteau. Hein ? Bon, pour une fois, j'ai vu que tu faisais attention, donc je te dis rien. Mais ne recommence pas. Donc je connote positivement le comportement de précaution, car finalement, effleurer un couteau, ce n'est pas dramatique. Donc je connote positivement parce que tu as fait attention à toi, mais je te rappelle l'interdit. Sous-entendu, quel message ? Si je fais attention à moi, je peux désobéir, mais si je désobéis sans faire attention à moi, là, il y a danger. Voilà ce que c'est que la désobéissance. Voilà ce que c'est, non pas apprendre à l'enfant à désobéir, parce que je ne lui dis pas « bravo, tu as désobéi », je lui dis « ne recommence pas », mais comme j'ai vu que tu faisais attention, pour une fois, je ne te sanctionne pas. Mais la prochaine fois, si tu recommences, hein, tu seras puni. Voilà. Donc maintenir cette espèce de poids, etc. Vous voyez que la complexité de la chose. Petit dernier détail. Le couteau est en main, première séquence, et l'enfant ne pose pas le couteau au bout de 3 séquences. Compliqué. J'étais, il y a très longtemps, dans une institution qui accueillait des jeunes mamans adolescentes ou très jeunes adultes, 18 ans et demi, 19 ans, un foyer de mères célibataires. Et on parlait de violence, et on avait le couteau comme ça, le couteau, j'ai cité cet exemple. Et toutes disaient, oh, ben moi, dès qu'il a un couteau, je lui arrache les mains. Je lui enlève les mains. Avant même de parler. Pourquoi ? Parce que, avec ce couteau, c'est, j'ai peur qu'il se fasse mal, j'ai peur qu'il fasse mal, etc., etc. Les couteaux sont une charge phallique, hein, bon, là, extrêmement puissante, extrêmement, voilà, excitante. Quand je saute sur l'enfant de 24 mois et que je lui enlève des couteaux des mains, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'apprends à l'enfant ? J'apprends à l'enfant qu'il y a un pouvoir excitant dans ce couteau et que c'est un objet absolument extraordinaire qui met le parent dans tous ses états. Et dès que le parent aura le dos tourné, j'aurai qu'une seule idée, c'est d'aller voir ce qu'il y a dans ce couteau qui excite autant maman ou papa. C'est comme ça que les objets magiques deviennent. Voilà. En revanche, quand le parent... Alors ça, c'est la position. Si l'enfant ne retient le couteau en main et ne pose pas le couteau, je t'ai dit que tu devais poser le couteau. Tu ne veux pas poser le couteau, je vais être obligé de te l'enlever des mains. Et un enfant, je vous rappelle qu'il a 24 mois, cet enfant. Je m'approche de lui et je lui enlève le couteau des mains sans lui faire mal, en lui disant, j'aurais préféré que tu le poses toi-même. J'utilise mon pouvoir de contrainte, mais sans dire, espèce de petite conne, espèce de petit couillon, tu aurais quand même pu le poser toi-même, ton couteau, connasse, voilà, ou connard, voilà. Ben, vous savez comme moi, ce que je dis là, hélas, dans un certain nombre d'adolescents difficiles, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Oui ?
Par rapport à cet exemple avec les adolescents et l'alcool, le pétard, parce que c'est pareil, ça excite les parents,
La puissance excitante de l'alcool ou du pétard est assez... Et du coup, effectivement, il y a une excitation parfois à y retourner. Et d'ailleurs, dans les familles qui sont censées, bon, ça ne me plaît pas trop que tu fumes un pétard ou ça ne me plaît pas trop que tu picoles une fois de temps en temps, mais c'est pas... Bon, voilà, je reviendrai là-dessus. Effectivement, cette comparaison, elle peut tout à fait tenir. Donc voilà pour ce que répondre à la question, est-ce que faut apprendre à un enfant à désobéir? Certainement pas. Mais face à l'acte de désobéissance, la réponse parentale doit toujours être mesurée et prendre en considération le danger qu'a encouru l'enfant et au contraire l'acte d'autonomisation qu'il a recherché. Pas plus tard que c'était dimanche. Dimanche, j'étais à Bordeaux. Et il y a un petit, sur les bords de la Garonne, il y a un skatepark très joli, avec un skatepark pour les grands, un skatepark pour les moyens et un skatepark pour les tout petits, avec leurs petites trottinettes à trois roues. Et il y a des petites vagues comme ça, où les enfants se lancent, etc. Avec leurs trottinettes, c'était mignon tout plein. Et il y a des enfants, 18-20 mois, 2 ans, 3 ans, un petit peu plus, qui jouent à la trottinette et qui s'initient comme ça à faire. Voilà. Et il y avait une fillette, manifestement 2 ans et demi, elle était assise en plein milieu de l'endroit où toutes les trottinettes circulaient, elle était assise avec sa trottinette à côté, elle n'était pas contente. Pas très bien, je n'ai pas vu la séquence précédente, mais en tout cas elle était là. Et le parent, qui était à l'extérieur du skate, avec une petite, dit à sa fillette, « Attention, tu gênes les autres. Attention, tu empêches les autres de faire. Attention, c'est dangereux, il ne faut pas que tu restes là. » Il a fait « Ah, il en est là. » Bon. Et finalement, le parent a franchi la porte, est allé se pencher vers la fillette. Il dit « Regarde là, prends ta trottinette et sors, lève-toi et va-t'en, tu vois. Tu ne peux pas rester là. Va au bord là-bas, tu ne peux pas. » Et la fillette est restée. Elle est restée. Et le parent lui dit « Écoute, je suis désolé, mais ce n'est pas possible. » Alors, il l'a pris gentiment, vraiment gentiment, il l'a pris et il l'a emmené au bord, sans s'énerver, sans se mettre en colère. Je peux vous dire qu'il y a 40 ans, la séquence n'était pas comme ça. Hein. C'était « et puis je t'emmène ». Il a vraiment été respectueux. Et la fillette n'était pas contente, elle pleurait. Et elle a dit « Maman, maman !» Le père lui a dit « Écoute, maman, elle aurait dit exactement pareil que moi. Tu ne peux pas rester là-bas. » T'es pas contente, je suis désolée, mais c'est comme ça, voilà. C'est-à-dire, il a utilisé sa force pour sortir la fillette, mais sans humiliation ni contrainte. Et il a même soutenu sa femme en disant, voilà ce que c'est que la dimension d'autorité chez une petite fille qui, de toute évidence, est en période d'opposition, probablement parce que c'est une fillette qui est toujours très considérée, j'y reviendrai peut-être. Mais voilà, je m'arrête là. J'ai répondu à votre question ? Oui, oui.
J'ai envie de toucher le couteau et de jouer avec ça. Je comprends ça.
Oui, oui, non, mais je tâche de comprendre. Alors, il y a quelque chose d'essentiel. Dans votre marque, il y a quelque chose d'essentiel que je dis et je répète, en particulier dans ce livre, le livre sur le pouvoir n'est pas la soumission. L'autorité n'est pas la soumission, de même, et la séduction n'est pas l'autorité. Il y a quelque chose d'essentiel. Tant que l'enfant n'a pas acquis un langage fluide et un langage suffisamment élaboré, on va dire 4 ans comme ça, bon, il y a des grandes variations d'un enfant à l'autre, mais entre 4 et 5 ans, tant qu'un enfant n'a pas acquis cette capacité, on doit demander à l'enfant à obéir, et quand il a obéi, on doit lui donner l'explication de la raison pour laquelle on lui a demandé de faire ça. L'explication doit venir après l'obéissance. L'explication est une récompense de l'obéissance. Quand on explique avant, on entraîne une excitation chez l'enfant et on lui brouille les idées. C'est trop, il comprend pas, il est trop. Donc on lui demande de faire les choses de façon à avoir un monde facile et on lui explique pourquoi c'était bien de faire ça. Quand l'enfant a acquis le langage, donc tu touches pas, pose ce couteau tout de suite et on rentre pas dans des grandes explications. Tu dois poser le couteau. Une fois que tu l'as posé, je te donne l'explication. Oui, c'est dangereux, tu peux te couper, il faut faire attention. Je comprends que il est beau ce couteau, mais voilà, etc. On lui donne toutes les explications qu'on veut. Mais une fois qu'il a... avec un enfant qui possède le langage, 8, 5 ans, 6 ans, on lui explique brièvement pourquoi je te demande de faire ça, pour telle raison. Et si l'enfant commence à argumenter les trucs, non, c'est comme ça, je te demande de faire pour cette raison-là et pas autrement. Et on ne rentre pas dans trop d'argusie. Et voilà, on argumentera avec l'adolescent ou le grand enfant. Mais avec l'enfant, on explique sans argumenter et on lui demande de faire. Et avec l'adolescent, on argumente, etc. Vous voyez, il faut être toujours au plus près de la capacité développementale de l'être humain. Voilà, c'est ça qui est difficile dans l'éducation. C'est qu'à chaque fois, il faut avoir une attitude différente. Bon, j'en viens avec la question de l'individu, pour terminer, parce que c'est le changement le plus absolu et le plus fondamental au niveau de l'adolescence aujourd'hui. Quand un rémouleur, un rempailleur ou un ramoneur, rémouleur, rempailleur, ramoneur, tous métiers qui ont passablement disparu, traversait le village chez ma grand-mère qui habitait le centre de la France, ce rémouleur, ce rempailleur ou ce ramoneur étant en général peu connu, elle me disait « Daniel, fais attention, t'approche pas. Attention avec ce drôle d'individu ou avec cet individu bizarre. » Quand ma grand-mère parlait de quelqu'un qu'elle connaissait, elle disait le père machin, la fille du père machin, la mère machine, etc. Elle nommait la plupart du temps les gens par leurs liens familiaux. Quand elle nommait les gens par leurs liens familiaux, c'était des gens du coin dont elle savait d'où ils venaient et où ils allaient. Et en général, Daniel, il avait le droit d'être poli, d'enlever sa casquette, de dire bonjour madame, bonjour monsieur, etc. Voilà. Et donc, ça se passait bien. Mais quand c'était quelqu'un dont elle ne savait pas d'où il venait, ni où il allait, dont elle ne connaissait pas les liens familiaux, ma grand-mère disait, qu'est-ce que c'est que ce drôle d'individu ou cet individu bizarre ? Daniel, t'avance pas. Les individus, pendant longtemps, quand on parlait d'un être humain et qu'on disait un individu, c'était quelqu'un d'un peu avec une connotation négative. Voilà, c'était intéressant. Et pendant longtemps, ça a été effectivement la situation particulière. Un individu, c'était suspect. En revanche, quelqu'un qui était dans un lien familial, dans une affiliation, dans une forme d'affiliation et de sujet familial, cette personne-là était une personne de confiance puisqu'on en connaissait les liens et les racines. Le terme individu, aujourd'hui, quand on parle entre nous, tout le monde parle d'individu. Tout le monde parle à propos des individus, etc. Alors que c'est un terme relativement, une utilisation relativement récente dans le langage. Jusque-là, nous étions soit des personnes, soit des sujets. J'aurai l'occasion de revenir sur cette définition. Ce qui me paraît fondamental de comprendre, c'est que il y a deux compréhensions de l'expression individu. Il y a une compréhension philosophique et une compréhension sociologique. Pour le philosophe, ce qui caractérise l'individu, c'est l'être humain et le sujet qui a été capable de s'émanciper de la contrainte liée aux exigences morales, religieuses en particulier, etc. Il accède à l'émancipation. Pour le sociologue, l'individu, c'est celui qui est autonome, autonomos, c'est-à-dire qu'il se mobilise, il a ses règles à lui-même, autonomos. L'opposition d'autonome, c'est hétéronome, c'est être contraint, être dirigé par une instance extérieure à soi. Hétéronomie. Je t'ordonne de faire ça. Quand vous faites quelque chose sous l'injonction, le commandement de quelqu'un, vous êtes hétéronome. Là, en portant votre masque, vous êtes dans une position d'hétéronomie. Vous avez l'obligation de porter votre masque. Ce n'est pas vous qui l'avez décidé, on vous l'oblige. Après, vous pouvez le décider vous-même pour vous-même. Mais socialement, c'est une imposition hétéronomique. On vous l'impose. Pas vous qui vous l'êtes imposé vous-même. Voilà. Donc c'est ça l'hétéronomie. Par opposition à l'autonomie. Pour le sociologue, l'individu, c'est l'être humain autonomos, autonome, libre de ses choix. Pour le philosophe, il s'émancipe de la contrainte sociale. Voilà. L'autonomie libre de ses choix, c'est-à-dire que l'individu choisit. Il choisit son métier, il choisit son conjoint, il choisit la vie qu'il veut mener, il choisit sa sexualité, etc., etc. Il choisit pour tout ce qui le concerne. Et aujourd'hui, la particularité d'aujourd'hui, c'est laquelle ? C'est que jusque dans le 1750, 1800, les hommes, les pater familias, quand ils étaient en particulier de ce qu'on pourrait appeler le monde éclairé, les philosophes, les savants, les gens plus ou moins riches, peuvent accéder à cette forme d'individu. Les hommes pouvaient devenir des individus, c'est-à-dire qu'ils pouvaient gérer leur vie, choisir leur métier, leur conjoint, encore que, vous voyez, ce n'était pas toujours facile. Le nombre de romans du 18e, 19e siècle, où ce sont des êtres humains malheureux parce qu'on les oblige à se marier avec un tel, où on se les oblige de faire tel ou tel métier, parce que le père fait tel métier, et sont extrêmement, c'est un ressort romanesque des romans du 19e siècle, qui était effectivement le début de l'autonomie de l'individu qui voulait choisir son métier, sa femme, etc. Donc les êtres humains, les hommes éclairés, pouvaient devenir des individus, être libres de choisir leur vie, etc., même si c'était parfois au prix de certaines révoltes ou de certaines revendications. On pourrait dire que pour les hommes, ce statut d'individu a été acquis dans le cours du 19e et au début du 20e siècle. Je ne vous ferai pas un dessin pour les femmes qui, dans le grand mouvement de libération des femmes, libération entre guillemets, parce que c'est dans les années 1950, les femmes ont pu progressivement accéder à leur statut d'individu, c'est-à-dire de devenir autonomes dans la gestion de leur vie personnelle. La caricature de cette accession à l'autonomie, ça a été effectivement l'accession à la pilule, pouvoir être enceinte, avoir un enfant quand on le voulait et comme on le voulait, et ça a été le divorce par consentement mutuel, etc. Et les nouvelles lois dont j'ai parlé tout à l'heure. Certes, il y a encore des progrès à faire, mais quand même, globalement, on peut considérer que dans le monde occidental, je précise bien dans le monde occidental, les femmes aujourd'hui ont accédé à la capacité d'être des individus. Et depuis le début de ce siècle, 1985, 90 et 2000 assurément, les êtres humains sont élevés dès la naissance comme s'ils étaient des individus. Je vais m'en expliquer tout à l'heure. Et donc nous sommes dans une société aujourd'hui où tous les membres de la société, les hommes, les femmes et les enfants aujourd'hui sont tous considérés comme des individus. Pas plus tard que tout à l'heure, j'écoutais à la radio où des jeunes adolescentes lycéennes et collégiennes braillaient, criaient parce qu'elles ne pouvaient pas mettre le vêtement qu'elles voulaient au lycée ou au collège et que si elles avaient envie d'être en petit débardeur ou en jupette, etc., elles ne voyaient pas et que c'était... Voilà. C'est quoi la loi ? La loi d'une société d'individus. La religion, religare, ce qui nous relie aujourd'hui, l'acte 1 de cette religion, je vais vous l'énoncer. C'est un acte 1 auquel vous croyez et que vous adhérez. Sauf que cet acte-là, il n'existe que dans certaines sociétés et depuis relativement peu de temps. Relativement peu de temps. Ça n'existe pas dans toutes les sociétés du monde, et ça n'existait pas il y a quelques décades. Décades, 30 ans, 40 ans. Cet acte-là, l'acte de notre foi individualiste, c'est « mon corps m'appartient, ma pensée m'appartient, et nul autre que moi-même n'a de droit sur ce corps et cette pensée. Mon corps m'appartient, ma pensée m'appartient, et nul autre que moi-même n'a de droit sur ce corps et cette pensée. » Quand les collégiennes et les lycéennes revendiquent de pouvoir mettre la tenue qu'elles veulent, c'est ça qu'elles énoncent. Mon corps m'appartient, ma pensée m'appartient, et nul autre que moi-même n'a de droit sur ce corps et cette pensée. On n'a pas à imposer à une jeune adolescente une tenue qu'elle a envie de mettre. Alors vous voyez que c'est compliqué, parce que même l'éducation nationale apprend aux jeunes enfants que leur corps leur appartient, que leur pensée leur appartient, etc. Cette loi que nous partageons tous ici présents, moi j'y crois cette loi, Je crois que mon corps m'appartient, ma pensée m'appartient, et que nul autre que moi n'a de droit sur ce que je pense. Seulement, ça pose deux choses. Ça pose le problème, premier problème, ça pose que le problème que tout ce que je pense, ou tout ce que j'imagine, mes fantasmes, mes désirs, c'est légitime pour moi, ça m'appartient, et j'ai le droit, mais ça ne veut pas dire que c'est légal et que je peux le faire. C'est la différence entre la légitimité et la légalité. Tout ce que je pense, c'est pour moi légitime. J'ai le droit de penser qu'Elisabeth Martin me fait chier, c'est une conne, elle m'emmerde, etc. J'ai le droit de penser ça. Théoriquement, je n'ai pas le droit de le dire, sauf là si je mets des guillemets pour montrer que c'est une métacommunication, je n'ai pas le droit de lire comme ça directement, parce que c'est la civilité qui l'impose. Voilà. Donc, effectivement, il faut faire la part entre ce qui est légitime et légal. Expliquez-moi, chez un jeune de 16, 17, 18 ans, qui lui a expliqué la différence entre ce qui est légitime et ce qui est légal ? Extrêmement compliqué. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, à partir de moi, du moment où moi, je pense, mon corps m'appartient, mes pensées m'appartiennent, etc., Madame Martin pense la même chose. Et donc, ma pensée, elle s'arrête là où la pensée de Madame Martin commence. Ce qui veut dire que je dois prendre en compte la notion de réciprocité. Et que son point de vue, il n'a d'être différent, d'être inférieur au mien, aucune raison d'être inférieur au mien. Voilà. Et ça, c'est compliqué. Qui apprend le concept de réciprocité ? C'est-à-dire la capacité à se décentrer de soi pour prendre le point de vue de l'autre et le considérer. Et le considérer. Donc, nous vivons aujourd'hui dans une société faite d'individus. Pourquoi ? Homme-femme, oui.
Quand on dit que l'école
est la vie, bien sûr, c'est ce que je vous ai dit. Oui, oui, on leur apprend ça. On leur apprend. Si l'école est laïque, bon, d'accord, mais on ne leur apprend pas. Non. La laïcité, ce n'est pas tout à fait ça. La laïcité, c'est l'idée que chacun a la religion qu'il veut et que l'État n'a pas à imposer des croyances religieuses aux autres. Ça, d'accord. Mais, alors, effectivement, ce qui est fondamental aussi, c'est que dans la laïcité, la croyance religieuse ne doit jamais être au-dessus de la loi de la République. Voilà, donc il y a quand même une butée, c'est celle-là. Hein, voilà, c'est pas la religion qui fait la loi, c'est la loi qui permet à chacun d'avoir la croyance qu'il veut, mais chacun n'a pas à imposer sa croyance à l'encontre des autres. C'est pas tout à fait la même chose que légitimité et légalité. Entre parenthèses, j'ai interrogé un avocat et un professeur de droit pour me faire un petit cours sur la différence entre légalité et légitimité, il est ressorti de ça qu'il fallait à peu près 15 bouquins pour expliquer ça et que c'était extrêmement complexe. C'est pas si facile. C'est les deux mots, c'est comme autorité, autoritarisme ou puissance. C'est facile de dire, mais expliquer vraiment ce qu'est la légitimité par rapport à la légalité, c'est compliqué. Max Weber a justement dit, l'autorité est légitime par rapport au pouvoir qui n'est pas nécessairement légitime. Et il donne trois légitimités. La légitimité de la coutume, la légitimité de la charismatique et la légitimité de la loi. Quand une loi est prononcée, il donne trois légitimités. L'autorité est légitime, ce qui veut dire qu'elle peut être légitime soit par la coutume, ce qu'on a toujours fait, c'est comme ça qu'il faut faire, donc c'est légitime, donc c'est comme ça. Vous voyez bien que dans notre société, ce n'est pas parce que nos parents ont fait ça que nous, on doit faire ça. Donc l'antériorité ne vaut plus pour légitimité. Deuxième mot, le charisme. Max Weber était allemand. Et effectivement, ce qu'il disait, c'est que ce qui est important, c'est le chef qui entraîne la troupe, qui entraîne les gens derrière lui. Le chef en allemand, ça veut dire Führer. C'est le Führer qui entraîne les gens derrière lui. Si je vous dis leader, vous allez entraîner. Le Führer. Et qu'est-ce que c'est que la légitimité charismatique ? C'est la séduction. C'est le discours séduisant qui vous entraîne. Rien n'est plus contraire à l'autorité que la séduction du tribun populiste. Voilà. Ça, c'est pas de l'autorité, c'est de la séduction. Et le troisième élément, la loi. La loi, sauf qu'aujourd'hui, on décrit des lois scélérates, des lois qui sont contraires aux lois des droits de l'homme. Donc les lois, il ne suffit pas qu'un gouvernement décide de, par exemple, de reconduire aux frontières les étrangers. Si ces étrangers ont déjà été punis, etc., c'est double peine, etc., et c'est une loi qui est contraire, et certains citoyens sont en droit de dire « cette loi n'est pas légitime ». Donc vous voyez que différencier la légitimité et la légalité, c'est extrêmement compliqué. Je viens de vous démolir les trois piliers sur lesquels Max Weber a construit son raisonnement qui permettait de différencier le pouvoir de l'autorité. Donc en détruisant les trois piliers sur lesquels repose la concept d'autorité chez Max Weber, j'entraîne une grande difficulté à penser l'autorité. Voilà, c'est ça. On y reviendra. On n'a plus que... Alors, je vais arrêter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi les enfants aujourd'hui sont élevés dès la naissance comme s'ils étaient des individus? Eh bien, effectivement, aujourd'hui, à la naissance, un bébé, c'est une personne. Le bébé est une personne et un bébé, chaque parent sait qu'il a des compétences. Et aujourd'hui, l'éducation des parents, l'éducation donnée par les parents, plus directement, le souci des parents, c'est de faire en sorte, pas l'éducation, le souci des parents, c'est de faire en sorte que les compétences de l'enfant se développent au mieux. Les compétences et son potentiel. Or, comme chacun sait, chaque enfant a un potentiel différent d'un autre enfant. Et on pourrait dire que d'une certaine manière, l'éducation s'est privatisée. Il n'y a plus. Au fond, il y a 30 ans, l'objectif des parents, c'était que l'enfant soit bien élevé, c'est-à-dire qu'il soit conforme aux normes sociales. Aujourd'hui, le souci des parents, c'est que l'enfant soit compétent et que son potentiel se développe au mieux. Donc le souci des parents, c'est de faire en sorte que l'enfant se révèle à lui-même. Se révèle à lui-même. C'est le contraire de l'éducation. Qu'il aille, que son potentiel aille au maximum, etc., etc., etc. Et quel est l'instrument que les parents utilisent pour faire en sorte que l'enfant développe son potentiel? C'est effectivement un peu la séduction, et c'est beaucoup la permissivité, au-delà de l'autorisation, la permissivité, et c'est effectivement l'exhortation. Montre-moi ce que tu sais faire, mon chéri. Allez, vas-y, montre-moi, etc. Et les enfants sont dans cette exhortation avec ce que j'appellerais presque une surstimulation, etc. Avec en arrière-plan, mais là, c'est trop long pour le dire, pour le développer, toute l'irruption que j'ai évoquée tout à l'heure de la technologie contemporaine, des écrans, etc., avec tout ce que ça amène. Donc les enfants, et le dernier point essentiel de l'éducation, c'est le choix. Aujourd'hui, on demande aux enfants de choisir qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux. Des petits de l'âge de 4, 16, 17 mois, est-ce que tu veux un yaourt à la fraise ou à la vanille? Est-ce que tu veux ceci, est-ce que tu veux cela? Les enfants sont bombardés de choix avant même de comprendre les enjeux de ce choix, avant même de comprendre les raisons. Et même par exemple le yaourt à la fraise ou la vanille, bon, si on demande à un enfant qu'est-ce que tu veux manger, vous le savez tous comme moi, que chaque jour il dira exactement la même chose que la veille. Et il s'enferme inéluctablement dans une alimentation stéréotypée. Et c'est le privé de ce qui est notre qualité, c'est-à-dire des êtres omnivores. On peut manger un petit peu de tout, voilà, et goûter un petit peu de tout. Donc il n'y a rien n'est pire que ces enfants qui sont confrontés au choix, qui est un fardeau éducatif terrible. Et quand effectivement un enfant, dès le tout petit, 18 mois, 20 mois, on lui a appris « qu'est-ce que tu veux mon chéri? Dis-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux prendre ?» etc. Il est dans cet impérialisme du choix. L'important pour lui, c'est d'avoir l'illusion que c'est lui qui choisit. Et d'ailleurs, à certains moments, chez certains enfants, ce qu'ils veulent même plus, quand on leur donne ce qu'ils ont demandé, immédiatement ils s'en désintéressent pour demander autre chose. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir le choix et pas de choisir quelque chose. Car tout choix impose un renoncement. Il n'y a pas de choix sans renoncement. Donc l'objectif étant de maintenir devant soi le potentiel immense de tous les choix, évidemment, les enfants et les adolescents sont piégés à ça. Parce que ça m'entraînerait trop loin. Qu'est-ce qu'il en est des adolescents? Ce qui me paraît fondamental, c'est que jusqu'au 1985-90, les enfants étaient élevés comme des sujets. Sujet, subjectum, subjectum, être placé sous le jet, sous l'autorité. L'étymologie du sujet, c'est celui qui est sous l'autorité du chef, du seigneur, du roi. Subjectum. Le sujet, par définition, il est d'une certaine façon assujetti à un ordre qui lui est supérieur. Alors cet ordre, il peut être extérieur, le père, cet ordre peut être intériorisé à travers la conscience morale. Le sujet, c'est celui qui a une conscience morale et qui agit sous le commandement de cette conscience morale, ce qui, en termes psychanalytiques, est appelé le surmoi. Voilà, c'est le c'est pas par exemple, ça s'appelle le surmoi. Le sujet est organisé autour de cela. Et effectivement, l'adolescence, c'était quoi ? C'était l'acte de la séparation-individuation. L'enfant sujet pouvait devenir un adolescent et un adulte individué en s'autonomisant, en se libérant du poids de la contrainte, mais en gardant la contrainte morale qui était la sienne. Et il devenait un adulte individué, libre de ses choix, etc., etc., mais en gardant cette éducation qu'il avait reçue en tant que sujet, où il avait en quelque sorte appris à obéir, ce qui lui permettait en tant qu'individu de pouvoir désobéir de temps en temps, soit à sa conscience, soit à des choses, etc., et de mener sa vie comme il l'entendait. Si papa me dit que je dois devenir charcutier et que moi j'ai pas envie de devenir charcutier, parce que c'est pas ce que j'ai envie, eh ben je choisis un autre métier, etc. Voilà. Aujourd'hui, en revanche, les enfants, dès leur naissance, sont élevés comme des individus. Dis-moi ce que... libres de choisir. Donc, devenir adolescent, il a déjà la liberté de choix. Devenir adolescent, c'est accepter d'amputer sa propre toute-puissance infantile, sa propre autonomie, pour laisser une place à l'autre. Et d'une certaine manière, devenir, de se subjectiver, c'est-à-dire de mettre l'autre à l'intérieur de soi pour lui donner une place. Donc au fond, l'enfant individu, il doit accepter de devenir un individu subjectivé, un adolescent individu subjectivé, c'est-à-dire accepter de contraindre cette contrainte que représente la perte de sa toute-puissance infantile, la perte de son absolue décision, pour donner à l'autre, à l'intérieur de soi, une part, qui est la part sociale dans laquelle nous vivons. Dit autrement, si l'adolescence d'il y a 50 ans pouvait être l'accès à une autonomisation en se révoltant, etc., aujourd'hui, l'adolescence et l'âge adulte devient effectivement une forme d'amputation, d'une forme de toute-puissance que je continue à revendiquer. Je revendique le maintien de ma toute-puissance infantile. Je revendique de pouvoir tout décider, etc., etc. Et qu'effectivement, renoncer à cette revendication, renoncer à cette toute-puissance, est un niveau de contrainte. Donc je dirais qu'aujourd'hui, ce qui caractérise un certain nombre d'adolescents, et le travail de l'adolescence, c'est que le travail de l'adolescence aujourd'hui est devenu un travail de renoncement et non plus un travail de conquête. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement douloureux. Alors les adolescents qui arrivent à l'adolescence en ayant déjà appris de temps en temps à renoncer, déjà appris le sens de la frustration, déjà appris le sens de devoir obéir de temps en temps et de pouvoir s'autoriser à désobéir de temps en temps. Ces adolescents-là, ils acceptent d'entendre que l'autre, il a aussi des droits, que coucher avec une fille, ou voire même coucher avec un garçon, car les filles, dans certains cas, sont exactement dans le symétrique, il faut encore avoir le consentement du garçon, il faut que ça se passe, ou le consentement de la fille, que ça se passe dans un cadre adapté, voilà, et pas simplement de vendre son corps ou de contraindre l'autre à faire ce que moi j'ai envie qu'il fasse. Et donc ces adolescents-là, quand ils ont acquis dans l'enfance leurs limites, ils peuvent traverser l'adolescence avec ce sens de la réciprocité et ce sens de la contrainte. Quand ces enfants arrivent à l'adolescence en n'ayant jamais appris ça, en ayant été simplement contraints soit par la force, soit par la séduction, et jamais par une autorité vraie, alors effectivement, l'adolescence devient quelque chose d'extrêmement difficile et d'extrêmement contraignant. C'est exactement la situation dans laquelle vous vous trouvez avec certains adolescents qui, effectivement, face à cette nécessaire amputation que représente le fait de devoir mettre quelque chose de l'autre en soi, quand on a été élevé, élevé comment ? Eh bien, pour terminer, je dirais cela, ce qui me paraît essentiel dans l'éducation contemporaine par rapport à l'éducation de jadis, c'est la chose suivante. Jadis, dans l'éducation, dès la petite enfance, dès l'âge de l'autonomie motrice, c'est-à-dire 14-16 mois, on apprenait à l'enfant que le rapport à l'autre était plus important que le rapport à soi. Tais-toi, écoute ce que dit ton parent, mets ta casquette, enlève ta casquette, écris correctement, etc., etc. Voilà, il y avait effectivement... Et qu'est-ce que c'est que toute cette éducation ex-doukéré, c'est apprendre à l'enfant que le rapport à l'autre est plus important que le rapport à soi. Ça s'appelle effectivement la conscience morale, ça s'appelle le surmoi, etc., etc., comme on veut. Qu'est-ce qu'on fabrique aujourd'hui ? On fabrique des enfants où on leur apprend « Qu'est-ce que tu veux, mon chéri ? Dis-moi ce que tu as envie. Dis-moi quel est ton choix. » Que le rapport à soi précède le rapport à l'autre. Alors, et qu'effectivement, mon idéal, mon idéal, ce que j'ai envie, etc., c'est plus important que l'autre. Alors, effectivement, on peut considérer qu'une société peut fonctionner comme ça à une condition, c'est qu'on apprenne à ses enfants la réciprocité et qu'on leur apprenne qu'un jour, ils devront être capables de prendre en considération la position de l'autre, la réciprocité, et qu'ils auront capables de quoi ? De capables de conserver l'autorité sur leur pulsion, de garder la main sur leur excitation. Garder la main sur ses pulsions, garder la main sur son excitation, c'est la forme moderne de l'autorité. C'est une autorité intériorisée, une autorité, je dirais, qui n'est plus transcendante, c'est-à-dire venue d'en haut, mais une autorité immanente qui vient de soi. Si effectivement aujourd'hui vous gardez votre masque, je pense dans l'immense majorité d'entre vous, et je l'espère, c'est parce que vous avez conscience que malgré tout ce masque, même si la science est parfois un peu flottante, c'est dans la mesure où il n'y a pas de traitement spécifique, pas de vaccin, etc., c'est une mesure de distanciation sociale contraignante, mais qui est quand même peut-être nécessaire. Et si de temps en temps vous l'oubliez, vous dites « Merde, j'ai encore oublié mon masque », vous vous dites « Ah bon, il faut que je fasse attention, moi ça m'arrive », et puis vous le remettez. Bon, même si vous n'êtes pas toujours très content, et que vous... voilà. C'est-à-dire que c'est une autorité immanente. Et si effectivement il y a quelques-uns qui disent « Tout ça, c'est des conneries, c'est du complotisme, etc. etc. », ce sont souvent des personnes qui ne supportent aucune autorité venant d'en haut, mais qui en même temps ne supportent pas l'entrave de leur propre supposée autonomie, tout en étant des êtres sociaux et des êtres de relations sociales. Alors c'est ça la difficulté, c'est apprendre à garder la main sur ses désirs et ses pulsions. Et c'est peut-être ce que les adolescents difficiles ne savent pas faire et n'ont pas appris, parce que je pense que ça s'apprend. Je crois que, et j'en terminerai par là, si les pulsions, c'est le domaine de la psychanalyse, l'autorité, c'est le domaine de la société. Et rien n'est plus antinaturel que l'autorité. L'autorité, ça n'est pas naturel. Dans la nature, l'autorité dans les espèces animales, ça n'existe pas. Ce qui existe dans les espèces animales, y compris les plus proches de nous, les primates supérieurs, c'est des rapports de pouvoir, de hiérarchie. Voilà. Et donc, l'autorité, c'est effectivement quelque chose qui permet aux humains de sortir du rapport de pouvoir. Et il n'y a pas d'éducation sans autorité. Donc c'est ça qui est extrêmement complexe. Et quand effectivement, comme le disait Madame Martin, dans la société, on est passé de 52% de parents qui pensaient que l'autorité était quelque chose d'important dans l'éducation à 27% des parents ou des adultes qui pensent que l'autorité est quelque chose d'important dans l'éducation, il y a vraiment, vraiment de l'inquiétude à avoir. Parce que l'autorité, c'est la capacité à garder la main sur ses propres pulsions. Et non pas simplement à se soumettre à l'injonction de quelqu'un d'au-dessus. S'il y a vraiment une crise, enfin, je ne crois pas qu'il y ait une crise de l'autorité, parce que je pense que l'autorité est une chose nécessaire pour la vie en société. Sinon, si on n'a plus d'autorité dans la société, ce qui est en train de se passer, c'est les caméras qui nous surveilleront comme des rats à tous les carrefours. C'est ce vers quoi on tend. La pseudo-liberté, mais avec la surveillance permanente, l'omni-surveillance. Donc si on n'est pas capable d'avoir un œil interne, C'est un œil externe qui nous surveillera. Et effectivement, dans la société, cette autorité reste un élément fondamental du vivre ensemble. Il n'y a pas d'autre possibilité. Sinon, on est dans ce monde d'omnisurveillance et d'omni-paranoïa. Donc, je termine.
5 minutes pour des questions.
Oui, si, je termine tout. Effectivement, il n'y a pas de crise de l'autorité. En revanche, il y a une crise profonde de toutes les figures qui étaient chargées d'incarner l'autorité. Car toutes les figures qui incarnaient l'autorité, c'était des figures transcendantes, hiérarchiques et autres. Dieu, le chef, le roi, le seigneur, etc. Toutes ces figures chargées d'incarner l'autorité ont perdu leur légitimité. Parce que l'autorité ne peut plus être un concept transcendant venu d'en haut, mais ne peut être qu'un concept immanent venant de l'intérieur de soi. L'éducation, ça consiste à permettre à l'enfant d'intérioriser cette nécessité sociale.
On a juste 5 minutes pour des questions. Donc une ou deux questions. Parce qu'on finit à midi avec les questions.
Oui, j'ai bien compris. Vous n'avez pas arrêté de me dire que j'avais le temps. Alors évidemment,
j'ai oublié de te dire que c'était à la fin. Voilà.
Non, excusez-moi.
Là, quelques questions.
Allez-y, j'essaierai de répondre brièvement. Il y a madame.
Qui est-ce qui...
Allez-y.
Oui, vous avez terminé brillamment en parlant de ces enfants à qui on ne fixait pas forcément beaucoup de limites quand ils étaient tout petits. Donc moi, je ne m'occupe pas d'enfants, je m'occupe d'adolescents. Mais c'est vrai qu'en voyant les adolescents que je reçois, je me doute que pendant l'enfance, il n'y a pas eu beaucoup de limites ou de contraintes. Et hormis ces adolescents qui sont complètement perdus, on a aussi des parents qui se posent beaucoup de questions, mais qui ne se remettent pas beaucoup en question. Voilà, et qui nous demandent de trouver des solutions miracles. Alors, à moins de les envoyer chez vous ou dans n'importe quel autre cabinet médical, avec un bon psychiatre, quel discours on peut leur tenir ?
Tout de suite, je peux vous dire, même le meilleur des psychiatres n'y arrivera pas. Bon, parce que le meilleur des psychiatres peut tenir un langage qui ne sera pas entendu ni par l'adolescent ni par les parents. Donc, ça ne servira à rien. Ce n'est pas le registre de la psychiatrie, c'est le registre de la... Oui, de la relation. Alors, comment faire pour qu'un adolescent qui ne connaît qu'une relation de pouvoir rentre dans une relation d'autorité ? C'est ça la question. Comment passer d'une relation de pouvoir à une relation d'autorité ? La seule manière, c'est effectivement, pour un adolescent, c'est vrai pour dans les foyers, etc., c'est d'avoir une posture d'exigence d'autorité. Et si l'adolescent n'écoute pas, n'obéit pas, d'exercer un pouvoir de contrainte, sans jamais mettre dans ce pouvoir une jouissance d'humiliation ou une jouissance de violence. Parce qu'en général, quand on se retient et qu'on se lâche, à ce moment-là, on est dans la jouissance à humilier l'autre, à le rabaisser ou à lui faire mal. Donc dans une institution, quand un adolescent, il faut effectivement discuter à plusieurs pour éviter la jouissance individuelle, de façon à ce qu'un acte de contrainte, oui, tu as fait ça, nous sommes obligés de te contraindre, nous sommes obligés. Nous aurions préféré faire autrement, mais comme tu ne veux pas entendre ce qu'on dit, nous sommes obligés de te contraindre. Mais on n'a aucun plaisir à te contraindre. Et on aurait préféré que tu le fasses spontanément. C'est ça, et quand on fait ça 2-3 fois, parce que l'adolescent, c'est tellement étonnant ce système qui commence par ne pas y croire, parce qu'il croit qu'on cherche à l'embobiner, à le séduire, il va recommencer 3-4 fois, et au bout de la 3e ou 4e fois, d'un seul coup, comme ça, il va changer, il va avoir confiance dans les adultes et dans l'institution. Mais c'est un travail qui demande 12, 18 mois, 2 ans.
On peut se servir aussi des médiations culturelles. Quand alors, même. Médiations, là, ce qui est quand même très important, c'est que dans ces institutions, oui. Pour répondre à ça, c'est souvent des activités où on va faire en sorte que le jeune va rencontrer des contraintes qui ne sont pas posées par nous, notamment par des objets, par de l'art, et qu'il va retrouver un monde de contraintes qui n'est pas posé par nous les adultes, mais qui est par exemple travailler du bois et rencontrer la résistance du bois, du fer ou d'une activité artistique ou physique, qui va médier de nouveau pour lui le rapport à la contrainte sans qu'il soit de plein fouet dans un rapport.
Enfin, pour que ça se passe bien, il faut qu'effectivement qu'il y ait un adulte qui accompagne et qui puisse permettre à l'adolescent de trouver le geste, soit l'adulte fait le geste lui-même, soit il donne un ou deux conseils pour que l'adolescent puisse trouver le geste qui lui permette d'avoir de la satisfaction dans l'objet qu'il va obtenir. Voilà. Car effectivement, ce qui permet aujourd'hui, ce qui est essentiel aux adolescents pour avoir leur sentiment de singularité, c'est la créativité. Donc les activités culturelles et artistiques sont des activités qui réouvrent le champ de la créativité. Mon livre « Avoir la rage », ça s'appelle « du besoin de créer à l'envie de détruire ». Quand on ne peut pas créer, on a envie de détruire. Donc soutenir la créativité des adolescents, mais elle doit être soutenue par la présence de l'adulte, permet effectivement de rencontrer la contrainte, soit de la batterie, soit de l'instrument de musique, soit de l'objet des pierres, enfin, peu importe, du pas de danse, enfin, tout ce que vous voulez, du graphisme de dessin, qu'on trouvait cette contrainte. Et à travers la découverte du plaisir à la créativité et de la reconnaissance que la créativité apporte, là, d'un seul coup, l'adolescent peut petit à petit comprendre le sens. Voilà, mais c'est un travail... Tout le problème, c'est effectivement le fait que trouver chez un adolescent la capacité, la compétence, le petit don sur lequel on peut s'appuyer pour lui permettre de progresser, avec un élément extrêmement important, c'est la capacité à persévérer. Parce que ces jeunes ont toujours effroyablement peur de l'échec, car l'échec a toujours été leur passé, qui entraînait dévalorisation, humiliation, moquerie, etc. Donc ils ont une trouille terrible de l'échec, et pour éviter l'échec, ils sont dans l'évitement de persévérer. Donc effectivement, les soutenir pour persévérer, c'est probablement un des enjeux du travail des éducateurs.
Madame, juste là.
Oui, vous parliez des enfants qu'on bombarde de choix. Et qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle réforme du bac où on demande à des adolescents de 14 ans de savoir déjà ce qu'ils veulent faire plus tard comme métier et de choisir des matières dont ils ne connaissent pas le contenu et les conséquences que ça peut avoir pour la suite de leurs études?
Ah oui, c'est la paradoxalité de notre société qui érige tout être humain dès sa naissance comme ayant la plénitude de son corps, de sa vie, de ses décisions, et comme s'il était déjà sachant tout. Il y a une forme d'absurdité là-dedans. Moi, par exemple, au moins pour le collège, je pense que ça serait très intéressant qu'on ferme tous les collèges, sans exception, qu'ils aient une heure d'échange, de discussion, en écoutant le lundi de la musique, en mardi en faisant quelque chose d'autre, mercredi, etc. Et le reste du temps, ils font des activités culturelles, du sport, du dessin, etc., qu'ils ont envie de faire, et on attend que la puberté se passe pour qu'au lycée, ou quand ils ont 16 ans ou 17 ans, on leur fait autre chose.
Vous proposez ça à M. Blanquer?
C'est un rêve, mais je pense qu'il y a une folie dans notre société, une folie d'autant plus importante que ces jeunes qui ont 13-14 ans, ils vont vivre jusqu'à 95 ou 98 ans. Et qu'ils vont en plus être amenés à faire 4 ou 5 métiers différents dans leur vie. Sans compter qu'ils auront 4 ou 5 conjoints différents dans leur vie. Être amenés à être suffisamment ouvert et à ne pas s'enfermer tout de suite dans des choix, dans des trucs comme ça, m'apparaîtrait plus intelligent comme mode éducatif que cela. C'est l'une des pires choses qu'on pourrait arriver, c'est de supprimer l'année de philosophie en terminale. Moi, je pense qu'il faudrait donner une année de philosophie en seconde, première et terminale, puisqu'on veut les considérer comme matures, considérons-les comme matures, et initions-les à la philosophie dès la seconde. Pendant, voilà ce que c'est, la réflexion, les pensées, les concepts. Je pense également qu'il devrait y avoir non pas une éducation religieuse, mais une éducation aux religions. C'est-à-dire que ils devraient connaître, tous nos jeunes devraient connaître l'islam, le judaïsme, les trois monothéismes, la chrétienté, le bouddhisme, le shintoïsme, les religions animistes, etc., de façon à pouvoir comprendre les enjeux, sachant que dans les polythéismes, il y a des polythéismes extrêmement respectueux des êtres humains, beaucoup plus qu'on imagine, parce que les monothéismes n'ont eu qu'une seule objectif, c'est de disqualifier le polythéisme pour justifier le monothéisme. Et que, Maurizio Bettini, sur l'histoire des religions, c'est fort intéressant. Et donc, effectivement, ouvrir à la pluralité des religions devrait être une éducation laïque essentielle. Quelle classe ? C'est pas, oui, l'histoire et le contenu des religions. Mais bon, voilà, le problème après, c'est... Oui, c'est comment c'est... Voilà. Alors, il y a les belles idées, il y a la réalisation qui dépend des êtres humains. Mais voilà. Mais bon, si